Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil et merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est Clara Gabillet qui vous informe à 7h. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Encore une nuit calme en Gironde et un feu qui ne progresse plus depuis 3 jours. Les autorités se mettent enfin à espérer un retour prochain à la vie normale. Dans le même temps, de nombreux incendies hier en Côte d'Or, en région parisienne et dans le Var où 600 personnes ont dû être évacuées des alentours de Brignoles. Nous serons en direct sur place. Et puis le monde du foot ne se remet toujours pas du projet d'ouverture de la FIFA à des investisseurs privés, mais son président Gianni Infantino défend une opportunité en or.
Enfin, un peu d'optimisme en Gironde.
L'incendie n'a pas avancé, indique la préfecture ce matin, après une nuit plutôt calme. Rachel Sadodine, on fait le point avec vous. Rachel, les nouvelles sont donc assez rassurantes.
Oui, la surface brûlée n'a pas évolué depuis 3 jours. On parle toujours de 42 000 hectares partis en fumée, et ça, malgré plusieurs reprises de feu constatées hier. 6 foyers sont toujours actifs ce matin. Ils se situent dans les secteurs du Grand Croc, Le Porge et au sud du lac de Lacanau. Les pompiers poursuivent donc leurs activités de traitement des lisières et de noyage. Les conditions météo s'annoncent favorables. Aujourd'hui, quelques averses sont attendues sur le littoral et pourraient même toucher la zone de feu. Le taux d'humidité est de 80% ce matin et puis les températures, elles sont en baisse. L'alerte orange canicule a été levée il y a une heure déjà.
Et en plus de la mobilisation des pompiers sur place, celle des forestiers, des entreprises qui effectuent en ce moment ce qu'on appelle des coupes tactiques, abattre des arbres pour freiner l'incendie en lui donnant moins de combustible. 127 kilomètres de coupes tactiques dans le bassin d'Arcachon. Reportage de l'une de nos envoyées spéciales, Marion Gauthier, entre Sainte-Hélène et Lacanau.
Le craquement des branches, puis le bruit sourd des arbres qui tombent sur la parcelle de Jennifer.
On la reverra plus jamais, peut-être grande et belle comme elle était. Ça fait mal au cœur parce que on va avoir des grands espaces vides.
Car une dizaine de machines s'activent entre les pins.
Ils les débitent et ils les évacuent de façon à ce que ça ne soit pas des sources de foyers.
Que les flammes n'aient plus rien à consumer sur 50 mètres avant une route départementale.
Il ne faut pas que ça revienne, il ne faut pas que ça traverse. Le risque, c'est la pointe du Médoc, quoi.
Alors Bruno, un forestier, s'acharne depuis des jours.
Je suis dépité. On travaille toute l'année en forêt et c'est pas pour ce résultat-là, quoi. C'est un cauchemar, quoi. Mais on va se réveiller. Hein.
Un mélange de poussière et de cendres au sol.
Là, voilà, alors.
Ben voilà, là.
Et des gilets orange tronçonneuses en main.
C'est le plus grand incendie qu'on a vu, je pense, ici. Ouais, ça fait peur, rien que d'en parler. Donc,
Vous en voyez le bout?
Bah, non, pas forcément. On espère juste que ça va s'arrêter un jour.
Maxime a été évacué de chez lui, mais il est resté dans la région, logé par son collègue.
Pour aider, surtout, parce que j'aurais très bien pu partir. C'est sûr qu'on n'a pas des lances à incendie, on n'a pas de choses comme ça, mais voilà, c'est ça, on a des tronçonneuses et des bras.
Tous doivent bientôt partir, des reprises de feu ont été repérées.
Le reportage de Marion Gauthier pour RMC.
À présent, cette colère qui monte dans la région, celle des habitants du Porge.
Une commune où 183 maisons ont été détruites. Certains estiment avoir été sacrifiés au profit des maisons plus luxueuses du Cap Ferret et que les moyens, selon eux, ont manqué pour protéger leur commune un peu plus modeste. Ces habitants ont même constitué un collectif et envisagent une action judiciaire. La préfète de Gironde, Sophie Broca, leur a répondu hier et a défendu l'action des pompiers.
J'entends un certain nombre d'interrogations qui s'expriment. Certains s'interrogent sur les décisions opérationnelles qui ont pu être prises. Je voudrais être très claire. Toutes les questions sont légitimes et nous devons y répondre, c'est notre devoir. Et le travail sera fait en transparence, avec rigueur. La seule priorité qui nous guide depuis le début, c'est de préserver les vies humaines, toutes les vies humaines. Et je veux rappeler que d'ailleurs nous ne comptons dans la population aucun décès ni aucun blessé grave, alors que c'est une des plus grandes saisons de feu au niveau national.
La préfète de Gironde qui affichait également hier soir son optimisme quant à un possible retour à la vie normale. S'est stabilisée donc en Gironde après une journée compliquée. Je me tourne à nouveau vers vous, Rachel Sadodine. Journée compliquée aussi dans d'autres régions.
Absolument, Clara. En Seine-et-Marne, 2 semaines après l'incendie qui a ravagé plusieurs milliers d'hectares, eh bien, 2 reprises de feu ont été constatées en forêt de Fontainebleau. Cet incendie, il est ce matin fixé dans les Landes. 2 nouveaux départs de feu. 45 hectares de végétation parcourus dangereux entre Morsang-sur-la-Nouvelle et Rion-les-Landes. Incendie toujours pas éteint à Biscarrosse, une centaine de pompiers toujours sur place. Et puis 125 hectares ont été parcourus en forêt de Couchet en Côte d'Or. Deux hélicoptères bombardiers d'eau ont été mobilisés hier en Bourgogne pour lutter contre ce feu qui, lui, n'est toujours pas fixé.
Rachel Sadodine pour ce point sur les incendies. Et il y a donc cet incendie dans le Var. 600 hectares parcourus hier après-midi au sud-est de Brignoles. Des habitants qui ont dû être évacués. Anna Jojard, correspondante d'RMC dans le sud-est. Vous êtes en direct donc de Brignoles ce matin devant la halle des expositions où ont été accueillis certains de ces évacués hier.
Oui, ils étaient plus d'une centaine hier soir ici dans cette salle. Certains ont pu être accueillis ailleurs dans la nuit, notamment grâce à des particuliers qui sont venus spontanément proposer des hébergements. Ce matin, ceux qui sont restés se réveillent doucement, même si certains n'ont pas vraiment réussi à dormir. Devant le hall des expositions, j'ai croisé Aurélia, un plaid sur les épaules avec son chien et son chat. Cette habitante de Brignoles fait partie des 650 personnes évacuées hier soir.
On a pris ce qu'on a pu, les papiers, les albums photos, les médicaments. Et c'était impressionnant. De la maison, on voyait que ça, on voyait que de la fumée, on voyait plus rien d'autre. Quoi. Et ça nous tombait dessus, on voyait les hélicoptères passer, les canadaires au-dessus de la maison. Quoi. On doit être, je sais pas, à vol d'oiseau de 300 mètres, même pas. Ouais. Le jardin, c'est tout sec, il suffit d'une cendre qui tombe et voilà, je suis pas tranquille. Hein. Tout à l'heure, on doit aller travailler, on n'a pas de vêtements, non, j'ai même pas mes chaussures, je suis partie en tintin.
Mais ce matin, Aurélia, comme d'autres, a une pensée pour les pompiers. Elle aurait aimé qu'ils aient un peu de répit dans la région après avoir lutté pendant plus d'une semaine contre le feu du Gros Bessillon, feu fixé depuis mardi soir. Le Gros Bessillon qui se situe, il faut le rappeler, à une vingtaine de kilomètres de Brignoles.
Anna Jojard, notre correspondante dans le sud-est, en direct de Brignoles, dans le Var, où donc 100 hectares ont brûlé. Et antenne ouverte si vous êtes dans le Var, si vous êtes en Gironde, antenne ouverte sur RMC jusqu'à midi pour tous vos témoignages, vos appels à l'aide, à la solidarité, vos coups de main aussi. C'est l'entraide et la solidarité, la générosité qui s'exprime sur RMC, antenne ouverte jusqu'à midi au 32-16.
Et depuis le début de ces incendies, fin juin, 263 personnes ont été interpellées, parmi elles 92 mineurs, selon les chiffres du gouvernement. Le gouvernement à qui une pétition s'adresse après ces incendies, pétition signée par 280 000 personnes pour interdire la chasse pendant 3 ans dans les forêts touchées par les feux. Bruno Valentin en est à l'origine, il a même adressé un courrier à Emmanuel Macron. Bruno Valentin qui gère un refuge pour animaux dans le Cantal.
Je ne vois pas comment on peut arriver, après un été tel qu'ils l'auront passé, à tuer des animaux. Je peux pas admettre ça. Il faut vraiment qu'on arrête pendant au moins 3 ans d'embêter les forêts. Mon premier objectif, c'est d'avoir une réponse du président et du premier ministre. Ben, il me montrerait au moins qu'il s'intéresse aux vivants et après qu'il me réponde favorablement au moratoire de 3 ans sur la chasse. Mais moi, je serai toujours présent tant que j'aurai pas ces réponses-là.
Et un mot de l'Espagne où la situation sur les incendies qui touchent le pays est également favorable. Presque tous les habitants autorisés à rentrer chez eux près de Madrid.
Il est 7h08 sur RMC. Dans le reste de l'actualité, la chroniqueuse pro-russe Xenia Federova sommée de quitter le territoire.
Elle est visée par un arrêté d'expulsion de la part du gouvernement, accusé de menacer les intérêts fondamentaux de l'État, en relayant, Pierre Bazin, la propagande du Kremlin.
Oui, le discours tenu par Xenia Fedorova, intervenante régulière des plateaux de CNews notamment, visait à déstabiliser l'ordre public en France, précise l'arrêté ministériel d'expulsion, désignant la quadragénaire comme un relais des campagnes de désinformation russes. Avec cet arrêté ministériel, elle est assignée à résidence avec pointage obligatoire jusqu'à ce que son expulsion soit rendue possible. Autre conséquence, celle qui parle de la guerre en Ukraine comme d'une opération spéciale reprenant les éléments de langage de Moscou ou qui accuse des pays européens de glorifier le nazisme, ne peut donc normalement plus travailler en France. Ses principaux employeurs, CNews, Europe 1, GD News, dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Par la voix de son avocat, Xenia Fedorova fait savoir qu'elle allait immédiatement former un recours. Recours qui ne suspend pas la mesure d'expulsion le temps qu'une décision soit rendue.
Pierre Bazin, service police-justice d'RMC. Toujours des secousses dans le monde du foot après ce projet de la FIFA dont on vous parlait hier matin, de créer une société commerciale pour vendre des parts de l'instance mondiale du foot à des investisseurs privés, notamment des proches de Donald Trump. Les réactions depuis s'enchaînent, Antoine Brard.
Des très vives inquiétudes pour la FFF, une attaque contre le foot d'après la fédération allemande. Les confédérations asiatiques et nord-américaines s'opposent-elles aussi au projet? Et pourtant, il a des chances d'aboutir. La FIFA a fixé un ultimatum aux 211 fédérations de football du monde. Elles ont jusqu'au 19 septembre pour dire si elles sont pour ou contre la création d'une société. Si plus de la moitié est d'accord, ce sera adopté. Cet ultimatum en dit long sur la nature de ce projet, résume ironiquement l'UEFA. Face aux remontrances, Gianni Infantino s'est senti obligé de se défendre hier soir.
C'est une proposition, une offre qui s'inscrit dans le cadre d'un processus démocratique. Et surtout, c'est une proposition, mais pas une obligation.
Rien d'obligatoire, sauf qu'Infantino a quand même une carotte exceptionnelle. Les fédérations qui disent oui recevront chacune 40 millions de dollars. Celles qui disent non n'auront que des miettes. Hier soir, la Confédération africaine de football a appelé ses membres à examiner la proposition de Gianni Infantino.
La FIFA qui ouvre par ailleurs plusieurs procédures disciplinaires contre l'Argentine et plusieurs joueurs argentins dont Leandro Paredes à la suite de la finale de la Coupe du Monde et les violences qui sont survenues à la fin du match.
C'était le journal de Clara Gabillet sur RMC. Il est 7h10 et on va repartir en direct en Gironde ce matin auprès des pompiers. Nous sommes en ligne avec le lieutenant-colonel Éric Agrigné. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous représentez la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On voulait prendre des nouvelles avec vous, des troupes, après 8 jours de combat contre les flammes. D'abord, peut-être un mot de la situation. Ce matin, on parle à nouveau d'une nuit calme. Est-ce que vous nous confirmez que les nouvelles sont rassurantes?
Oui, en effet, on reste sur une enveloppe globale du feu de 42 000 hectares, qui est bien sûr colossal, mais ce feu reste dans cette enveloppe, malgré effectivement quelques réactivations, mais qui étaient prévisibles, notamment en raison de cette météo et de l'élévation des températures. Mais ce feu reste pour l'instant contenu dans cette enveloppe, ça c'est encourageant, même si le travail continue, parce que les nuits sont calmes, mais les sapeurs-pompiers restent au travail, notamment avec l'utilisation des feux tactiques qui sont utilisés la nuit, puisque les conditions sont davantage favorables la nuit.
Oui, on voit que ce feu peut se réactiver à tout moment, à n'importe quel endroit, et ça met les pompiers toujours sous tension en réalité.
Oui, parce que dans cette enveloppe de 42 000 hectares, il y a des parties. D'ailleurs, on le voit quand on regarde les cartographies qui matérialisent le feu. Ce n'est pas un contour linéaire. Il y a des poches de parties non brûlées à l'intérieur même de ces 42 000 hectares. Et c'est dans ces poches-là de non brûlées qu'effectivement, on constate des réactivations. Il faut être vigilant pour éviter, surtout éviter, que ce feu ne sorte du périmètre des 42 000 hectares de manière à ce qu'il n'aille pas toucher un nouveau massif et donc reprendre de l'ampleur.
La préfète disait hier soir envisager un possible retour à la vie normale. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que les habitants vont pouvoir rentrer chez eux dans les heures, dans les quelques jours qui viennent?
Alors d'ailleurs, d'abord, ça a déjà commencé puisque certaines autorisations ont été données. Ce sont des mesures qui sont effectivement du ressort de Madame la Préfète en raison de plusieurs paramètres, parce qu'il y a bien sûr le risque incendie, mais il y a tout un tas d'autres paramètres, notamment les risques liés à la circulation. Vous savez qu'il y a des routes qui sont assez étroites à certains endroits pour relier les villages les uns aux autres. Donc c'est un ensemble de paramètres qu'il faut intégrer avant de donner des autorisations de retour de ces personnes, même si on comprend que les gens aient envie de retourner chez eux au plus tôt.
Vous disiez, les pompiers ne peuvent, même si la situation s'est calmée, il est hors de question de déserter le terrain. Les pompiers sont toujours sur le pont. Ça fait 8 jours, 8 nuits qu'ils sont face aux flammes. Comment vont les troupes? Est-ce qu'elles tiennent?
Alors les troupes sont déterminées. Vous savez, un sapeur-pompier, lorsqu'il s'engage, il s'engage sur une mission. Et la mission, elle sera terminée lorsque le feu sera éteint. Je ne sais pas si on mesure, il y a plus de 3200 pompiers engagés. Au bout de 8 jours, 3200 pompiers, c'est colossal. C'est un chantier énorme et c'est un chantier qui, malgré cette énorme mobilisation, permet malgré tout à notre système de tenir partout. Il y a eu hier, encore beaucoup de départs de feu sur la France entière et les sapeurs-pompiers sont présents partout, assurent leur mission, le système tient, il est éprouvé, les femmes et les hommes qui luttent sont fatigués, c'est logique, mais le système tient et la détermination est intacte.
Le système tient et on le voit effectivement, hein, vous le dites, hein, c'est partout, c'est le Var qui repart, on en parlait dans le journal de 7h, c'est y compris la forêt de Fontainebleau dont le feu est fixé depuis 15 jours, il y a eu une reprise de feu hier soir, ça veut dire qu'à tout moment, ça peut partir ailleurs.
Oui, on peut citer d'autres départements, comme par exemple la Côte d'Or et encore d'autres. Oui, nous sommes en train de vivre un été compliqué. La Fédération nationale l'avait dit bien avant le début de cette saison. La saison a commencé très tôt. Hein. Dès le début du mois de juin, on a eu les premiers feux. Et ces conditions climatiques vont devenir la norme. Il faut que tout le monde, du citoyen jusqu'au plus haut niveau de notre administration en prennent bien sûr conscience et il va falloir que cette saison soit un nouveau départ sur l'approche globale de ces feux de forêt.
Lieutenant-colonel, je voudrais juste une dernière question vous faire réagir à ce qu'on entend beaucoup du côté du Porge, qui est vraiment la commune martyre, la commune qui a connu sans doute le plus de destructions, avec 185 maisons ont brûlé jeudi dernier. Les habitants ont créé un collectif, ils veulent des réponses, ils disent avoir vu les pompiers partir, les moyens aériens abandonnés, ils estiment avoir été sacrifiés pour, disent-ils, sauver le Cap Ferret, plus cossu, plus touristique. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ?
Bah, si vous permettez, plusieurs choses. D'abord que la Fédération nationale apporte, bien entendu, tout le soutien qui s'impose à déjà des concitoyens qui ont tout perdu. On peut comprendre leur tristesse, on peut comprendre leur émotion. Ensuite, plusieurs éléments. Un sapeur-pompier, je l'ai dit tout à l'heure, sa mission, c'est un, la priorité des priorités, la sauvegarde des vies humaines. La deuxième, c'est la sauvegarde des biens et des animaux. La troisième, c'est la sauvegarde de l'environnement. On constate quoi depuis le début de cet été qui est terrible sur le front des incendies ? Aucune victime civile. Je répète, aucune victime civile malgré les feux terribles que nous combattons sur l'ensemble du territoire français. Donc ça, c'est une victoire absolue. La deuxième chose, on parle effectivement de maisons qui ont brûlé. Sur l'ensemble de la zone de la Gironde, c'est plus de 200. C'est triste, c'est malheureux et c'est pour
nous... Mais pour vous, il n'y a pas eu de choix qui a été fait ou à un moment, on a dit, bon, bah, on abandonne ce village parce qu'il faut aller sauver le Cap Ferret ?
On n'est pas... Enfin, je pense qu'il faut prendre la mesure que ce feu est toujours actif. Les pompiers sont à la lutte encore aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, 8 jours de lutte, 3000 combattants du feu. Donc que ces gens-là soient déçus, c'est un droit le plus strict. Ils ont le droit de demander effectivement des comptes.
Mais on sait que parfois, il faut faire des choix et qu'ils sont difficiles pour les pompiers sur la zone.
Le temps de l'enquête viendra. Il n'y a aucun problème. Nous vivons dans un état de droit. Simplement, les sapeurs-pompiers ont préservé des milliers de maisons, des milliers d'entreprises, des milliers d'infrastructures. Et ceci depuis le début de l'été. Il faut aussi en prendre conscience. Et surtout, la corporation a payé aussi un lourd tribut avec 4 décès de sapeurs-pompiers depuis le début de l'été. Il ne faut pas l'oublier.
Et de nombreux blessés aussi dans les rangs des pompiers, donc ils sont toujours très très mobilisés depuis le début de l'été en Gironde et ailleurs. On l'a vu dans le Var, en Côte d'Or aussi depuis hier. Merci lieutenant-colonel Éric Agrigné. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin, Fédération nationale des sapeurs pompiers de France. Il est 7h18, on attend bien sûr vos témoignages au 32-16. On lit aussi vos messages sur le WhatsApp RMC avec Victor.
Et vous êtes nombreux évidemment à souhaiter apporter votre aide. Je lis le message de Yann qui nous dit qu'il habite à Nantes. C'est un ancien militaire de la Marine nationale. Il nous explique qu'à Nantes, il a créé un collectif nantais pour la Gironde et qu'il est prêt à partir à n'importe quel moment avec ce collectif pour apporter de l'aide. Ils ont fait des collectes de matériel dans les supermarchés. Ils ont aussi fait une cagnotte pour financer leur mission là-bas. Tous ces appels aux dons, toutes ces volontés d'aider, évidemment, on les relaye sur RMC Antenne Ouverte jusqu'à midi et notamment émission spéciale entre 9h et midi sur RMC.
Il est 7h18.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h22 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. On va retourner au 32-16. C'est Ali qui est en direct avec nous depuis le département de la Loire. Bonjour Ali.
Bonjour Sébastien, bonjour Victor.
Bienvenue Ali sur RMC, RMC Story. Il y a un sujet qui vous fait réagir ce matin dans l'actualité, on en parlait un peu plus tôt, c'est ce décret qui a été pris par le gouvernement et qui désormais va forcer un élève à changer d'établissement lorsque ses parents se comportent mal en cas de violence ou de menace. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que c'est totalement logique, puisque l'éducation c'est un travail d'équipe. Il y a celui qui envoie et celui qui réceptionne. Si les deux ne vont pas ensemble, forcément, si le parent va faire preuve de violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, comment vous voulez qu'après l'enfant ne reproduise pas ou respecte ce qu'il va avoir en face de lui ? Donc c'est une question de logique. Aujourd'hui, il faut vraiment remettre l'éducation dans les deux sens. On dit souvent quand l'enfant fait des bêtises, c'est la responsabilité du parent. Mais il y a aussi la responsabilité des deux. Donc.
Oui, mais là, c'est l'inverse. Est-ce que un enfant doit être sanctionné entre guillemets pour le comportement de ses parents ? Certains disent qu'il paye finalement le comportement de sa famille.
Non, mais Sébastien, on va pas se mentir. Il y a une expression qui dit les chiens ne font pas des chats. Si l'enfant il se retrouve dans cette situation, je vous le dis, hein, croyez-moi que s'il voit son père faire preuve ou sa mère faire preuve de violence, ça veut dire que lui automatiquement derrière, il va le répéter. Donc, je verrai pas pourquoi aujourd'hui on va pas associer les deux.
Moyen de pression mis sur les parents entre quelque sorte pour bien se comporter quoi. Vous avez des enfants vous, Ali ?
J'en ai deux, ouais, j'ai deux filles.
Et comment ça ? Quel âge elles ont vos filles ?
8 et 9 ans.
8 et 9 ans, donc vous connaissez ça, peut-être vous côtoyez certains parents à l'école.
Mais moi, j'ai grandi dans une génération, excusez-moi, mais si on avait le malheur d'en prendre une par le professeur, croyez-moi que mes parents derrière, ils remettaient une deuxième sauce. Hein. Ils mettaient pas en doute la parole du professeur. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les enfants font des bêtises, mais c'est les parents qui vont en mettre une au professeur parce qu'ils remettent en question l'éducation. Donc non.
Moi, et ça vous est déjà arrivé de le vivre vous dans votre école ?
De voir des parents monter au créneau contre le professeur ? Ouais, malheureusement oui. Et justement c'est bien ça qui me peine aujourd'hui, c'est que je veux bien qu'on fasse évoluer la société, mais faut prendre l'évolution dans le bon sens, pas dans le mauvais. Aujourd'hui on a banalisé la violence contre l'éducation nationale. Malheureusement on l'a vu avec Samuel Paty. Mais je pense qu'on n'a pas assez appuyé là-dessus justement pour remettre l'église au milieu du village.
Merci pour votre témoignage, Ali, depuis la Loire.
Si je peux juste me permettre, Sébastien, juste voulais apporter mon soutien aux pompiers là qui sont sur le feu et dire aux citoyens, pensez à eux quand ils viendront taper chez vous avec les calendriers. Voilà, pensez bien à ce qu'ils ont fait tout cet été.
Et très très beau message Ali, et effectivement tous vos messages d'ailleurs sont relayés jusqu'à midi sur RMC, un standard ouvert justement si vous voulez avoir un mot pour les pompiers. On parlera des moyens justement des pompiers tout à l'heure à 7h40 avec mon invité. Est-ce qu'on a négligé les moyens de la sécurité civile? C'est le débat et la polémique qui devient politique du moment. On sera avec une députée qui a travaillé sur le sujet, ce sera après le journal de 7h30. D'ici là, l'économie avec Manu Le Chypre. Bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Et une bonne nouvelle sur le front de l'emploi ?
Oui, absolument, avec des seniors qui travaillent beaucoup plus.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h26, l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Avec Emmanuel le chiffre du jour, c'est 61,7%. C'est la proportion de seniors qui occupent aujourd'hui un emploi.
Oui, Sébastien, c'est un des chiffres les plus importants pour l'économie française aujourd'hui. Et c'est un des chiffres autour duquel va tourner un des grands débats de la présidentielle à venir, les retraites. Rappelez-vous, lors des débats de ces dernières années, l'objection des syndicats à la volonté de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans, c'était de dire, mais attendez, à quoi ça sert de repousser l'âge de départ à la retraite si les entreprises ne gardent pas les salariés ? L'enjeu, c'est effectivement que les gens travaillent véritablement plus longtemps. Et à cette objection, le gouvernement répondait, le gouvernement et puis les libéraux et la droite aussi, il faut être honnête, c'est précisément le fait de repousser l'âge de départ à la retraite qui incite les entreprises à garder plus longtemps les seniors. Eh bien, ce que montrent les chiffres de la DARES qui viennent d'être publiés, c'est qu'il y a bien un effet positif sur l'emploi du passage de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. 61,7% de plus de 55 ans au travail, c'est un record historique pour l'économie française.
Mais est-ce que c'est vraiment à cause de la dernière réforme ?
Oui, il y a plusieurs tendances qui le montrent. Si vous regardez, par exemple, depuis 3 ans, La hausse du taux d'emploi est portée par les plus âgés. Pour les 60-64 ans, ça a augmenté de 8 points sur la période. C'est considérable. Si vous prenez à âge égal les générations concernées par la réforme de 2023, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1962 et après, eh bien ces générations sont nettement plus nombreuses à travailler que les générations nées juste avant 1962. C'est particulièrement vrai pour les femmes et les diplômés. À 62 ans, l'écart est quand même de 17 points pour les femmes et de près de 10 points pour les hommes. En gros, sur 100 femmes, il y en a 17 de plus qui travaillent parmi celles qui ont 62 ans qu'avant la réforme. Du coup, l'écart se réduit avec le reste de l'Europe, mais la France reste quand même un des pays où les plus de 55 ans travaillent moins qu'ailleurs. Hein, nous, on est donc à 61,7%. La moyenne européenne, c'est 66. On est à plus de 70% en Allemagne ou en Suède.
Emmanuel Le Chypre, on se retrouve juste après le journal de 8h. On aura d'ici là le nouveau chiffre de la croissance.
Ça tombe dans quelques minutes.
Ce matin, à tout à l'heure. Manu, dans un instant, la météo et un nouveau journal. À tout de suite. Bienvenue sur RMC, il est 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal tout de suite avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. La tendance est à l'optimisme. En Gironde, après une semaine de lutte, l'incendie est toujours stabilisé. La météo est favorable aujourd'hui. RMC est sur place en Gironde et ça brûle toujours ce matin dans le secteur de Brignoles, dans le Var. Une nouvelle mesure pour protéger les enseignants face aux parents agressifs. L'élève pourra être forcé de changer d'établissement. Et la canicule fait aussi des dégâts dans les ruches. Les abeilles peinent à butiner, les fleurs se dessèchent et la production de miel est en baisse, de quoi inquiéter les apiculteurs.
On a donc enfin des nouvelles rassurantes ce matin en Gironde.
L'incendie n'est pas encore fixé, mais il ne gagne plus de terrain depuis 3 jours. Une nuit plutôt calme avec des dizaines de reprises de feu, des reprises de feu maîtrisées par les pompiers accompagnés de civils. Jean-Wilfried Forquez, vous êtes en direct ce matin à Lesch-Cap-Ferré, à leur côté.
Oui, avec Nesta exactement, Nesta qui rentre d'une reprise de feu. Bonjour.
Bonjour.
Alors du café, pourquoi vous êtes, c'est pas votre métier, vous êtes mécanicien dans l'aéronautique, pourquoi vous êtes allé au combat ?
Tout à fait, bah parce que déjà premièrement, je suis attaché à la région, ça fait mal au cœur de voir une région partir en fumée. Et après, bah, le métier de pompier, ça a toujours été un métier de rêve pour moi. Donc je me suis dit que je suis obligé d'aller les aider.
Alors donc vous êtes sur place, vous êtes avec une remorque, une citerne ?
Oui, tout à fait. On a un tracteur équipé de 3 cuves de 1000 litres. Et après, on a un 4x4 avec 2 cuves à l'arrière, avec 2 lances à incendie et en avant.
Vous avez stoppé le feu ?
Non, mais on était sur les petites reprises, tout ça. Donc, on essaye de faire de notre mieux. Après, on n'est pas pompier, donc bon.
Non, en tout cas, vous êtes au combat. Voilà, l'exemple de Nesta au combat ce matin et cette nuit pour les reprises de feu ici et qui ont été calmées par les 1300 pompiers, mais également des civils comme Nesta, présent toute la nuit sur le terrain.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Lesch-Cap-Ferré pour RMC. Des températures en baisse, une météo plus favorable. Les conditions s'améliorent enfin sur le front de l'incendie. La préfète de la Gironde se montre positive.
On peut raisonnablement être plus optimiste pour les jours qui viennent parce que la météo enfin va nous être un peu plus favorable avec une baisse des températures. Et si cela se confirme, nous pourrons envisager le retour à une vie plus normale pour les habitants, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin de travailler. Et évidemment, sauf dans les communes qui sont encore sous le feu.
2 personnes ont été interpellées cette nuit en Gironde, soupçonnées de vouloir déclencher un feu. Ça brûle également dans les Landes. Le feu de Biscarrosse est toujours en cours. 2 nouveaux départs hier. 45 hectares ont été parcourus par les flammes dans le secteur de Rion, les Landes. Et des pompiers mobilisés également dans le Var. 100 hectares brûlés depuis hier dans le secteur de Brignoles. L'incendie n'est pas fixé ce matin. 650 personnes ont dû fuir leur domicile. Et un refuge pour animaux a également été évacué. Réaction de sa présidente, Nadège Griffon.
Le panache s'est fait de plus en plus dense. On était devant le portail, on était plus ou moins inquiets. Mais on voyait les flammes de la colline qui jonchaient le refuge. C'est devenu dingue d'un coup. Les gendarmes sont venus nous dire, vous avez une demi-heure pour évacuer. On a eu beaucoup, 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 beaucoup de volontaires. Ça s'est fait comme ça, à la va-vite. Chacun a pris un chien, c'est-à-dire une quinzaine. J'avais pas une caisse pour tous les chiens, mais il y a des gens qui sont partis avec des chiens attachés dans leur voiture. On était tous avec de l'adrénaline, forcément. Au fond du cœur, on se disait, non, pas nous. Je disais qu'on allait peut-être y passer.
Une cinquantaine d'incendies en cours en France. C'est le cas près de Dijon. 125 hectares ont brûlé depuis hier. L'incendie n'est pas fixé. Réunion ce matin à 9h à Bercy avec les acteurs du secteur économique. Le gouvernement veut aller vite avec déjà hier une première annonce, une mesure de soutien en faveur des travailleurs indépendants touchés par les incendies, notamment en Gironde.
Et justement, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes parmi ces volontaires qu'on entendait à l'instant avec Jean-Wilfried Forquet, ces volontaires qui donnent un coup de main aux pompiers, on attend vos témoignages. Je vous rappelle, le standard est ouvert jusqu'à midi, émission spéciale jusqu'à midi pour vous entendre, pour faire vivre aussi les élans de solidarité, de générosité à travers la France. 3216 et le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Et après un recul surprise du PIB de 0,1% sur les trois premiers mois, l'économie française renoue avec la croissance au deuxième trimestre, plus 0,2%, chiffre ce matin de l'INSEE. RMC, 7h34, une nouvelle arme pour l'éducation nationale face aux parents agressifs. Quand le comportement des parents devient problématique, c'est l'élève qui pourrait devoir changer d'établissement. Un décret vient d'encadrer cette mesure, mais concrètement, Caroline Renaud, dans quel cas elle pourra être appliquée ?
Si un parent compromet gravement le fonctionnement de l'établissement ou s'il menace la sécurité ou la santé d'un membre de la communauté éducative, alors le chef d'établissement pourra saisir le directeur académique. C'est lui qui décidera, après un échange avec les parents, de radier l'élève et de l'inscrire ailleurs. Une sanction nécessaire pour protéger le personnel, explique Bruno Bobkevitch, secrétaire général d'un syndicat de proviseurs.
Le plus courant, c'est évidemment la violence verbale, mais on est allé sur des violences physiques. Vous avez des personnels qui se font frapper par des parents d'élèves. C'est arrivé plusieurs fois.
Mais pour la FCPE, cette mesure revient à punir l'élève pour les actes de sa famille.
Un enfant ne peut pas supporter la responsabilité d'autrui.
Moustapha Ousselik, son vice-président.
On a une crainte de décrochage qui est une fragilisation de la continuité de la scolarité de l'enfant en question. L'enfant va forcément être perturbé du changement d'un établissement alors qu'il n'a pas commis d'erreur ou de faute.
Pour lui, les mesures administratives ou judiciaires existantes suffisent. Des moments de médiation permettraient aussi d'apaiser ces différends, ajoute-t-il.
Il est 7h36 sur RMC, la canicule met les abeilles à rude épreuve.
Les plantes et les abeilles souffrent des vagues de chaleur et de la sécheresse, et cela a des conséquences sur la production de miel. Certains apiculteurs, Alexandre Thibault, travaillent déjà à perte alors que l'été est une période très intense pour leur activité.
Dans son exploitation de mille ruches dans la Loire, Gilles Desor a déjà mis fin au contrat de ses saisonniers.
Pour la première fois, on va pouvoir prendre des vacances au mois d'août. D'habitude, une saison apicole chez nous, ça se finit vers le mi-août d'année, fin juin, début juillet, on avait fini. On a fait une année correcte jusqu'aux premières canicules et après, tout s'est mis à sécher.
Il produit notamment du miel de lavande et sait qu'il va perdre 90% de ses récoltes car les abeilles ne peuvent plus produire de miel.
Au niveau de chaleur qu'on a déjà franchi, tout s'arrête.
Jean-Philippe Clément, apiculteur en Haute-Loire.
On a un environnement qui est très très desséché. Les plantes comme les arbres se protègent, donc les floraisons sont réduites, les productions de nectar sont stoppées. L'abeille dans la nature rencontre des difficultés pour pouvoir se fournir en nectar ou en miel.
La chaleur qui a aussi des conséquences directes pour les ruches qui sont en cire.
Le risque vraiment sur une ruche qui serait exposée en plein soleil et qui ne serait pas isolée, ça serait que les cires s'effondrent sur la grappe d'abeilles et qu'elles meurent engluées dans la cire.
Alors pour tenter de sauver ces abeilles, il est contraint d'utiliser de la mousse isolante pour protéger ses ruches.
Et le quintet.
Quintet, c'est à Dieppe à 20h15 aujourd'hui.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, l'As, Love is Gold, son outsider est le 9, King Trezy.
C'était le journal de Clément Gouit sur RMC. Il est 7h38 et vos messages arrivent par WhatsApp au 06 12 424 424. Victor, avec beaucoup de messages de soutien encore aux pompiers.
Oui, beaucoup de messages de soutien qui nous arrivent. On a d'abord Christian qui écoutait Ali, notre auditeur tout à l'heure, qui a adressé un message de soutien aux pompiers et qui disait pensez à eux une fois qu'ils toqueront à votre porte pour vendre les calendriers. C'est exactement ce que dit Christian. Il s'associe à ce message d'Ali et il faut soutenir nos soldats du feu. On a aussi Pierre qui nous dit, tiens, j'aimerais bien que les gens lancent un message de soutien aux pompiers en inscrivant un peu sur leurs réseaux sociaux. Voilà, je suis pompier, à l'image de Je suis Charlie, à l'époque des attentats. Voilà, une manière de leur rendre hommage aussi un peu plus symbolique, mais très importante pour leur remonter le moral.
06 12 424 424 pour vos messages sur WhatsApp. Le 32 16 qui est ouvert, standard ouvert jusqu'à midi sur RMC. Il est 7h39.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant justement, la France manque-t-elle de moyens pour lutter contre les feux? Le gouvernement s'en défend, les oppositions accusent. Une loi sur la sécurité civile est restée dans les tiroirs depuis des mois. Alors où sont nos carences et où trouver l'argent pour mieux rémunérer, mieux équiper nos pompiers? La députée Sophie Pantel avec nous dans un instant. Elle a rédigé deux rapports sur le sujet et elle a des propositions. Et bien sûr, vous réagissez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Comment mieux armer la France face au feu? A-t-on négligé la sécurité civile? Question qui devient très politique alors que le gouvernement est accusé de ne pas avoir mis les moyens suffisants pour équiper nos pompiers. Bonjour Sophie Pantel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes députée socialiste de Lozère, co-rapporteur de deux missions parlementaires, justement sur le budget de la sécurité civile avec votre collègue LFI Damien Maudet. Votre conclusion, c'est que nos moyens ne sont plus à la hauteur. Pourtant, le gouvernement répète que le budget de la sécurité civile a doublé en l'espace de 10 ans, donc sous les deux mandats d'Emmanuel Macron, que la flotte aérienne a aussi été largement renforcée. Tout cela reste insuffisant?
Alors, aujourd'hui, nos moyens, ils sont plus du tout dimensionnés puisque, en fait, ils étaient dimensionnés pour couvrir le sud de la France et en particulier le pourtour méditerranéen. Et on voit bien que, avec l'accélération du changement climatique, les conséquences sont là. Aujourd'hui, on parle du feu, mais dans quelques semaines, on parlera d'inondation. Donc, en fait, les soldats du feu sont d'abord des soldats du climat. Et en plus, ils assument aussi d'autres missions liées au secours à personne. Donc, en fait, nous, ce qu'on avait dit dans nos rapports, c'est qu'il fallait non seulement renouveler, moderniser, diversifier la flotte existante. Je pense, par exemple, à la question des hélicos lourds pour les territoires de montagne. Mais il faut l'amplifier parce que depuis 2022, on voit bien que c'est l'ensemble du territoire national qui est concerné par ces départs de feu. Alors évidemment, la nature des feux est différente, même si sur certaines parties du territoire comme la Gironde ou sur le sud de la France, on commence à voir développer des méga-feux.
Qu'est-ce qui nous fait le plus défaut? Où est-ce que vous mettez la priorité? Sur les moyens techniques, sur les moyens matériels ou sur l'humain et sur les effectifs?
Bah en fait, la doctrine de sécurité civile de la France impose de mettre les moyens partout, puisqu'en fait, la doctrine dit qu'il faut attaquer massivement le feu. Et parfois, nos populations comprennent pas. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais présidente de SDIS, quand on avait des départs d'incendie, on envoyait beaucoup de camions d'un coup pour pouvoir éteindre les feux. Et les gens nous disaient quand même, vous avez déplacé beaucoup de camions. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est cette doctrine qui permet d'arrêter la plupart des feux. Et il y en a quelques-uns qui sont pas arrêtés et qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, comme on le voit sur la Gironde. Donc, il y a eu une partie de renouvellement de la flotte, puisqu'il y a 6 Dash sur 8 qui ont été changés. Il y a 40 hélicos, les fameux H-145 de Airbus qui ont été commandés. Il y en avait 36, ça fait plus 4. Et il y a les 4 Canadair avec toute la polémique qu'on connaît entre...
Qu'on attend
entre
dans les années qui viennent, qui ne sont toujours pas arrivés. J'aurais qu'on dise un mot des pompiers volontaires, on parle beaucoup du statut et des conditions de travail de ces pompiers volontaires qui quand même représentent 80% des effectifs de nos pompiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de combien ils sont payés aujourd'hui? Quel est leur statut et est-ce qu'il faut aussi agir là-dessus?
Bien sûr, d'abord, la France ne pourrait pas faire face si elle n'avait pas ses sapeurs-pompiers volontaires. Donc ils sont 180 000, un peu plus de 180 000 sur les 250 000 sapeurs-pompiers que l'on a. Et donc à côté des sapeurs-pompiers volontaires, on a les sapeurs-pompiers pro et on a évidemment les militaires avec la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers à Paris, les marins-pompiers à Marseille et puis les unités de sécurité civile à Livourne et à Brignoles. Donc ce sont des volontaires, ça veut dire que ce sont des gens comme vous et moi qui ont un métier à côté et qui choisissent en fait d'avoir un engagement citoyen. Et on voit bien que certains vont jusqu'au don ultime puisque on a un certain nombre de sapeurs-pompiers comme des pros qui laissent leur vie. En fait, ils sont des vacations, ils sont très peu rémunérés. Quand vous êtes sapeur première classe, deuxième classe, vous êtes à 8 euros quelque chose. Et quand vous êtes officier, ça monte à 11 ou 12 euros de l'heure. Donc c'est très très peu. En fait, c'est pas leur motivation. Leur motivation, c'est d'abord de s'engager pour leur territoire, de le défendre et d'avoir cet engagement citoyen.
Mais on risque d'en manquer dans les années qui viennent?
Alors, et d'abord, déjà, aujourd'hui, il en manque. Alors, c'est estimé à 50 000, mais demain, il en manquera encore plus. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas uniquement compter sur l'État, sur les moyens financiers, sur les sapeurs-pompiers. Il va falloir qu'il y ait une culture du risque dans ce pays, parce qu'on voit encore des gens qui fument et qui jettent leurs cendres là où ils sont. Il faut que ça commence tout petit, qu'il y ait une prise de conscience. Et il peut y avoir un engagement aussi de la part des citoyens. Cet hiver, par exemple, à l'Assemblée, on a voté la possibilité d'avoir des réserves communales de sécurité civile. Donc ce sont des personnes qui peut-être ne peuvent pas être pompiers pour X raisons, mais qui peuvent venir en appui sur la logistique, qui peuvent aussi faire de la prévention. Voilà, et c'est cet ensemble-là qui nous permettra de réussir. Parce que si on compte uniquement sur l'État, bien sûr qu'il va falloir en faire une cause nationale et que chacun fasse nation. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que la sécurité civile, si on veut pouvoir apporter des réponses et ne pas se trouver dans la même situation les étés qui vont arriver, il faut qu'il y ait une concorde, il faut qu'on puisse se mettre autour de la table et que tout le monde soit d'accord sur la cible à atteindre. Ensuite, on fait une planification et une programmation pour l'investissement pluriannuel pour pouvoir y arriver. Parce que sinon, on ne verra pas le bout et ça ne pourra fonctionner que si la population est résiliente.
Restez bien avec nous, Madame Pantel. Je voudrais qu'on donne la parole à Vincent qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Vincent, vous êtes dans la Sarthe, c'est ça ?
Totalement. Bonjour.
Et ça vous fait réagir, c'est ce manque de moyens identifiés pour la sécurité civile, pour nos pompiers ?
Après, moi, oui, une grosse pensée d'ailleurs pour tous ces pompiers qui, il ne faut pas juste payer pour leur calendrier une fois par an, il faut juste les considérer tout le temps. Moi, je suis infirmier à l'hôpital depuis des années. Et ce que je vois, c'est tout le régalien en fait qui a été laissé de côté essentiellement depuis Monsieur Sarkozy, qui a vraiment pointé du doigt les fonctionnaires. Et puis, alors du coup, nous, les infirmiers, après le Covid, pendant le Covid, on nous applaudissait, tout ça, tout allait bien, machin. On a été. Alors Monsieur Macron nous a un petit peu augmenté, extraordinaire.
Vous faites le parallèle en fait, infirmier, pompier, même combat quoi.
Les profs, les gendarmes, les policiers. Et là, on voit que la France tenait avec tout ça. Et là, on a manqué de considération envers tous ces métiers qui sont pourtant importants. Alors maintenant, on s'étonne qu'il n'y a plus de profs, on s'étonne que plus personne ne veut faire infirmier, on s'étonne que les conditions sont devenues catastrophiques.
Et effectivement, de la même façon, on craint que de manquer de pompiers volontaires.
Mais bien sûr,
Sophie Pantel va vous répondre parce que justement, ouais. Je voudrais qu'on entende vos propositions, Madame la députée. Vous dites, il faut une taxe de séjour et une taxe sur les assurances. Ça veut dire qu'en fait, il faut aussi qu'on accepte tous de mettre un peu la main à la poche pour financer notre sécurité civile et nos pompiers.
Alors, nous, on a une réponse avec Damien Maudet à tous les étages, si je peux me permettre de parler ainsi. Il y a d'abord la prévention, et c'est pas rien la prévention, il y a cette culture du risque. Il y a évidemment des moyens supplémentaires financiers, parce qu'il va falloir investir massivement. Et donc, dans nos propositions pour financer cet investissement, nous, ce qu'on dit d'abord, c'est que le système assurantiel, il doit participer plus. Et on a d'ailleurs rendu tout début juillet un rapport sur la valeur du sauvé, parce que aujourd'hui, lorsque vous sauvez une vie, lorsque vous sauvez une maison, lorsque les sapeurs-pompiers apportent ça, c'est autant pour les assureurs qui ne sont pas à rembourser, à condition évidemment que les personnes aient un contrat d'assurance.
Oui, donc les assureurs ont tout intérêt en fait, ça va leur faire gagner de l'argent si on défend mieux les territoires.
C'est une valeur, enfin c'est une notion académique que les sapeurs-pompiers ont développée. Sinon, sur la question du financement de la sécurité civile, en gros aujourd'hui c'est 7 milliards la sécurité civile, et c'est essentiellement financé par les collectivités, donc ce sont les départements et les communes, enfin bloc communal au sens large, parce qu'il y a pu y avoir des transferts de compétences. Et donc après on a l'État. L'État, sur le BOP 161, celui sur lequel nous sommes rapporteurs, c'est à peu près un milliard. Mais vous avez d'autres crédits qui financent de la sécurité civile, notamment au niveau de la DGA, la Direction Générale de l'Armement. Donc par exemple, les quatre entreprises en ce moment qui sont en train de travailler pour développer des solutions souveraines en matière d'aéronefs ne sont pas financées sur le 161.
Donc il est urgent, je suis désolé, on arrive au bout, Madame la députée, mais on comprend votre message, il est urgent de trouver des nouvelles ressources pour financer la sécurité civile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce matin. Sophie Pantel, députée socialiste de Lozère, je remercie Vincent qui était avec nous au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, le bonus RMC de Charlène Villemer avec Jules ce matin qui est en concert ce soir à Fréjus. En bande organisée, personne
peut nous canaliser. Et oui, il est la tête d'affiche du festival Azura et nous réserve un show totalement différent. Plus petit, plus intimiste, loin des formats XXL habituels. Il y a 2 mois, le rappeur marseillais a marqué l'histoire. Remplir le Stade de France 2 soirs d'affilée. 100 000 personnes à chaque fois, réunies autour d'une scène centrale. C'était mieux qu'Indochine, U2 ou encore Johnny Hallyday sur la même scène.
Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs comme...
Et ce soir, le J sera donc avec le DJ Yann Muller, César ou encore MC Jackson. Et l'été est loin d'être fini pour le rappeur marseillais. Rendez-vous en Mayenne le 24 août prochain. Retour au format gigantesque, cette fois showcase XXL au VNB Fest. Longtemps moqué, le Minot de Marseille est devenu un pilier de l'industrie et collectionne les disques d'or jusqu'à 26 au total, au point que Jules aussi a désormais son propre dictionnaire.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 7h54 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story, c'est l'heure du portrait du jour avec Victor Porcher. Ce matin, vous nous présentez Xenia Fedorova, journaliste pro-russe qui officie sur CNews et qui est sous le coup d'un arrêté d'expulsion.
Oui, de son nom de jeune fille, Xenia Borchik. C'est avec celui-là d'ailleurs qu'elle apparaît jeune figurante dans un film de propagande à la gloire du FSB, le contre-espionnage russe. Alors, agent à la solde de Moscou, c'est l'image contre laquelle elle lutte depuis son installation en France. Pas franchement évident quand on arrive en tant que patronne de Russia Today France, chaîne de télé financée par le Kremlin, puis interdite en Europe quelques mois après l'invasion de l'Ukraine. Invasion, guerre, agression, pas forcément les mots favoris de Xenia Fedorova, elle qui préfère, comme le pouvoir russe d'ailleurs, le terme d'opération spéciale. Elle qui nie les déportations d'enfants ukrainiens, pourtant documentées. Elle qui considère encore que c'est moins les bombardements russes que le soutien des Occidentaux à Kiev qui alimente la guerre. Toutes ces contre-vérités, Xenia Fedorova les lance désormais des quatre coins de la galaxie médiatique Bolloré, notamment sur CNews, là où d'anciens collaborateurs lui prêtent un pouvoir quasi cosmique, faire disparaître de l'antenne tous ceux qui la contrediraient.
Et c'est ça qui lui vaut aujourd'hui cet arrêté d'expulsion.
Ah, ça lui vaut en tout cas d'être qualifié par la diplomatie française de propagandiste patenté qui sert la soupe à Poutine. Ça lui vaut aussi d'être interdite de territoire en Allemagne pour ingérence étrangère, ce dont l'accusait déjà en 2017 Emmanuel Macron, victime alors de fausses rumeurs. Il l'avait interdite de meeting avant de lui répondre plus tard quand elle l'interpelle en conférence de presse.
J'ai toujours eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes.
Et je pense la même chose. Elle était en charge d'une agence de propagande d'État, répétait-il il y a quelques semaines. Xenia Fedorova va former un recours, un luxe démocratique que n'ont pas les journalistes qui critiquent le pouvoir en Russie.
Victor Porcher pour le portrait du jour. Il est 7h56 et on part chez vous, dans vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
Puisqu'on continue ce tour de France des maires élus ou réélus cette année et nous allons ce matin dans la commune de Théier. C'est en Loire-Atlantique. Et ici, il n'y a pas qu'un seul, mais 2 maires sans étiquette pour un peu moins de 2000 habitants face au poids de la fonction, aux difficultés du mandat. Ils ont décidé de se partager la tâche, un quotidien pas tout à fait comme les autres. Et c'est Cyprien Pézril qui a passé la journée avec eux pour RMC.
Voilà déjà 2 mandats qu'ils sont tous les 2 maires de la même commune.
Vous voyez, monsieur le maire Arnaud Pajot, monsieur le maire Jérôme Scolaire.
Ils se concertent pour chaque décision, président tous les 2 le conseil municipal et sont ensemble pour chaque réunion importante.
On a un rendez-vous avec 44 à 14h. Merci.
Comme aujourd'hui pour parler électricité.
Jean-Joël, merci d'être présent à Théier.
Là, tu vas nous présenter le bilan.
Ils se corrigent, se complètent.
Ok. Mais c'est eux qui les financent du coup.
Ils vont les financer.
Nous, là-dessus, typiquement, on s'y perd. Quoi.
Fin du rendez-vous, direction le bureau de messieurs les maires assis face à face. Officiellement, la loi ne reconnaît qu'un seul maire à Théier, c'est Arnaud Pajot. Mais eux n'imaginaient pas travailler autrement qu'en duo. Ils se répartissent la charge et leurs indemnités d'élus équitablement.
Si on l'a fait comme ça, c'est parce qu'il y avait une réalité de démission, de fatigue, de poids probablement à un moment donné et que ça nécessite à ce que les conseils municipaux peut-être se réinterrogent sur leur organisation.
On a été sur des accidents de voiture, tout ça, et c'est vrai que d'état d'eux sur un accident de voiture, quand vous avez deux jeunes qui sont... dont l'un des deux qui est mort devant vous, c'est mieux d'être à deux.
Jérôme Scolar le jure, si ça marche, c'est parce qu'il n'a jamais de désaccord avec l'autre maire. Pour eux, ce fonctionnement permet de mieux défendre les intérêts de leur village et laisse le temps à Arnaud Pajot de s'investir dans la communauté de communes d'Anceny.
Jean-Philippe.
Bonjour Arnaud.
Ça va bien ?
Bien.
Bon. Allez, c'est parti.
Une nouvelle réunion seule, cette fois-ci, avec Philippe Pourrégan, le directeur du développement économique.
Comme à l'habitude, hein, je te propose, on va balayer un peu tous les points, on va dire, qui concernent tout ce qui est les zones d'activité, l'immobilier d'entreprise.
Ok. Pour nous, on ne voyait pas faire autrement. C'est-à-dire que pour vraiment suivre l'ensemble des dossiers, ça nous semble nécessaire hein, quand même. Je ne vois pas comment les autres élus font d'ailleurs au quotidien. Dès le départ, on a l'ensemble des informations, tous les deux avec Jérôme. Donc ça permet d'aller au cœur des projets beaucoup plus rapidement.
Les habitants voient double et là sur ça leur va bien. Arnaud Pajot et Jérôme Scolar ont été élus et réélus en mars dernier avec davantage de voix, dont celle de Nelly et Michel.
Ils sont joignables, ils sont à la portée de tout le monde, ils viennent à toutes les manifestations qu'on peut faire. Il y a un lien, il y a une complicité, il y a une relation, une vraie relation.
Ils sont complémentaires l'un et l'autre et puis c'est très bien comme ça parce que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui veulent prendre des responsabilités sur une commune pourvu que ça dure.
Et en ce moment, malgré les vacances, il y a toujours un maire dans le village.
Et il faudra juste regarder qui est d'astreinte.
Comme chaque année, ils ont décidé de partir en congé l'un après l'autre.
Le reportage signé Cyprien Pézeri dans Loire-Atlantique. Dans un instant, la météo et journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h01 sur RMC. Soyez tous les bienvenus.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Enfin un peu d'optimisme en Gironde où la nuit a été calme et le feu n'avance plus depuis maintenant 3 jours. Mais les pompiers n'en ont pas terminé et vous l'entendrez, ils sont épuisés après une semaine de lutte contre les flammes. Des incendies qui se sont multipliés partout en France hier, notamment dans le Var où 600 personnes ont dû évacuer aux alentours de Brignoles. Et puis les bars font de la résistance. Ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir dans les communes et notamment les villages. Reportage en Bretagne en fin de journal.
Le feu est donc toujours stabilisé ce matin en Gironde.
C'est ce qu'indique la préfecture après une nuit calme. Cela fait 3 jours que le feu dans le bassin d'Arcachon n'avance plus. La préfète de Gironde se met même à envisager un retour à la vie normale si l'accalmie se confirme. Mais ce n'est pas encore fait. Le feu n'est pas fixé et il dure depuis maintenant 7 jours. Une semaine de lutte acharnée des pompiers. Une semaine épuisante. Le reportage à Saint-Jean-d'Illac d'Inès Zegloul.
Odeur de brûlé dans la pénombre d'un gymnase, la mine défaite des pompiers se laisse tomber sur les lits de camp.
C'est dur.
Quelques minutes, quelques heures de repos volées à l'incendie.
Donc t'as des douleurs à la malle au cou.
Ah, épuisé.
On va s'arrêter où ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ?
Question laissée en suspens. Sous le regard inquiet de Nicolas, le gérant du dortoir, il nous fait signe de sortir.
On va laisser dormir, ils sont fatigués. On a évacué 2 pompiers avec le SAMU parce qu'ils étaient intoxiqués.
Évacuer les blessés, soigner les bobos, les soldats du feu défilent.
Donc là, vous venez chercher quoi ? Des pansements, tout ce qu'il faut pour vos collègues ? Ouais. Parce que vous repartez sur opération, c'est ça ?
On part directement là-bas.
Okay, ça n'arrête pas.
Ça va durer encore un peu. Quoi. Un coup la cano, un coup l'Aige Cap Ferré, un coup.
À peine le temps de donner des nouvelles à leurs proches.
Ah ben là, je dois appeler en visio ma fille. Quoi. Ah, elle attend que ça.
Dehors, ceux qui restent debout au milieu des camions carburent à la caféine, ressassent.
On est préparé à ça. Ouais. Mais pas de cette ampleur-là. C'est impossible.
Et ça, même dans les yeux d'un pompier, ces images-là, elles restent.
Ah oui, ça va rester.
Au loin, un fourgon s'approche, les relèves arrivent au compte-gouttes.
Okay, vous allez pouvoir dormir un peu plus.
Enfin, glisse l'un d'entre eux.
Un reportage d'Inès Zegloul en Gironde où 2 personnes ont été interpellées cette nuit pour suspicion de mise à feu. L'optimisme ce matin, il est notamment dû à des conditions météo plus favorables après une journée très chaude hier, plus de 40 degrés dans certaines villes de la région. Charlène Villemer, les températures devraient baisser un peu aujourd'hui.
Oui, on a perdu entre 8 et 10 degrés déjà depuis hier. Il y a eu d'abord ces orages cette nuit avec très peu de pluie. Cette chute des températures, on l'explique surtout avec ce vent plein d'ouest, une masse qui vient de l'océan Atlantique et qui ramène donc beaucoup d'humidité. Les conditions s'améliorent dans le secteur. Fin de la vigilance canicule orange et retour des températures estivales. 32 degrés annoncés et attendus cet après-midi à Bordeaux et 29 à Marcheprime.
Merci beaucoup, Charlène Villemer.
Et dans le Var, cette fois, un nouvel incendie s'est déclaré hier après-midi.
Au sud-est de Brignoles, et moins de 24 heures après que le feu du Gros Bessillon a été fixé, ce nouvel incendie dans le département a parcouru une centaine d'hectares. Il est maîtrisé ce matin, nous disent les pompiers. Deux d'entre eux ont d'ailleurs été blessés hier et 600 personnes ont été évacuées. Plus d'une centaine de personnes accueillies dans la halle des expositions de Brignoles hier soir, où le réveil est difficile ce matin pour cette famille de vacanciers.
Il faisait un peu froid, on avait quelques couvertures. Par contre, l'accueil est super, quoi.
J'ai mal dormi. On a stressé la journée avec le feu. C'était flippant à voir. Parce qu'au début, on rigolait vers la piscine. On disait, ah ben, ils vont les éteindre, mais ça s'est propagé. On a moins rigolé tout d'un coup. On a vu des grandes flammes au-dessus des gros arbres. Ils étaient.
Donc là, on a dit, bon, ben là, il va falloir qu'on prépare un sac et on va partir. Et arrivé au bout du chemin de notre maison, on a trouvé les pompiers.
Le feu n'est toujours pas fixé non plus en Côte d'Or. 125 hectares ont brûlé depuis hier au sud de Dijon. Des pompiers toujours mobilisés aussi dans les Landes où deux nouveaux départs de feu ont ravagé 45 hectares. Les nouvelles sont un peu meilleures pour Fontainebleau près de Paris où le feu a repris hier mais a été fixé dans la soirée après avoir brûlé 6 hectares. Des incendies également en Grèce. 8000 personnes sont évacuées de Crète. Un peu d'optimisme donc ce matin, on le dit en Gironde mais pas forcément pour les professionnels sur place, notamment ceux du tourisme qui redoutent des conséquences économiques très difficiles. C'est à cette inquiétude que doit répondre le gouvernement aujourd'hui. Réunion au ministère de l'économie. Thomas Becker, service politique d'RMC. Le gouvernement qui met déjà la pression sur les assureurs avec déjà une mesure de soutien en faveur des travailleurs indépendants.
Oui, ceux directement impactés par les incendies, l'aide d'urgence versée par l'URSSAF est rehaussée de 2 000 à 8 000 euros. Le gouvernement devrait aussi octroyer des mesures de trésorerie. En clair, des reports d'échéances pour les charges et les cotisations seront concernées les entreprises directement touchées par les flammes, mais aussi celles qui pâtissent du manque à gagner sur place, notamment le secteur du tourisme. Les dizaines de milliers d'hectares partis en fumée ont contraint plus de 13 000 entreprises à évacuer. 130 000 salariés sont empêchés de travailler. Le gouvernement ne pourra pas rendre cette période indolore, explique un conseiller de Bercy. Mais l'objectif est d'assurer que la viabilité des entreprises n'est pas en danger. Le gouvernement compte mettre la pression sur deux volets. Les assureurs, déjà mis à contribution pour les déplacer, et la relance du tourisme post-incendie pour offrir à la Gironde, je cite, une arrière-saison florissante.
Thomas Becker, service politique d'RMC. L'économie française renoue avec la croissance après un recul surprise du PIB de 0,1% sur les trois premiers mois. Elle est en hausse au deuxième trimestre de 0,2%, indique l'INSEE.
Et on revient sur ce chiffre avec Emmanuel Le Chypre juste après le journal. On y reviendra aussi avec notre invité à 8h40, Amir Reza Tofighi, le président des entrepreneurs, la fédération des PME. Et vous réagissez si vous êtes chef d'entreprise au 32-16.
Un animateur périscolaire mis en examen dans le Var a hier. Un homme de 58 ans qui est visé par trois plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineur. Il était suspendu depuis février de l'école maternelle où il travaillait. On en vient à ces couvre-feux pour mineurs instaurés dans plusieurs villes, particulièrement instaurés cet été avec les fortes chaleurs pour éviter aux habitants qui vivent fenêtres ouvertes de subir les nuisances à l'extérieur. Cela existe notamment autour de Saint-Étienne dans la Loire, dans plusieurs villes, et à Villars. Reportage de notre correspondant Vincent Chevalier.
Depuis le début de l'été, des jeunes se rassemblent régulièrement le soir. Alors pour eux, le couvre-feu passe mal.
On sort au stade, on fait des foot, traîne entre copains, quoi. Ça enlève une part de liberté.
C'est inutile. C'est, en plus, on est l'été, c'est encore pire.
Est-ce que ce couvre-feu, ça va vous empêcher de sortir, vous?
Bah, je sais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais non.
Assises sur un banc près de la mairie, Léna et Iliana, 15 ans, sont moins catégoriques. Elles qui n'ont pas l'habitude de sortir si tard.
En soi, ça protège des personnes malsaines du soir.
Ça protège d'un côté les ados, mais après, c'est nul, puisque bah, on peut pas faire ce qu'on veut, quoi.
Le sujet divise même les adultes.
Il y a eu des embrouilles il y a quelques temps. C'était pas des mineurs. Hein.
C'est pas logique que les parents laissent les enfants courir, sortir le soir.
Un couvre-feu, mesure drastique assumée par le maire.
Alors, c'est une restriction de liberté.
Jordan Da Silva.
Des faits de bruit, des faits de déchets, des faits d'utilisation des vélivers de Saint-Étienne Métropole de manière totalement incohérente. Et c'est pour cela que on a voulu prendre ces arrêtés et les appliquer.
En cas d'infraction, pas de sanction. Les parents sont juste appelés pour venir récupérer leur enfant.
Une bonne nouvelle à présent pour les bars qui se portent particulièrement bien ces dernières années. Ils sont de plus en plus nombreux dans les villes et les villages depuis 2010, plus 4,6% même entre 2016 et 2023 selon l'INSEE, hausse notamment en zone rurale comme à Bois-Trudan, un village de 700 habitants en Ille-et-Vilaine où un bar vient justement d'ouvrir il y a quelques semaines et où s'est rendu pour RMC notre correspondant Martin Lange.
Attablé avec deux amis, Christophe se désaltère avec une bière fraîche. Habitant de la commune depuis 6 ans, il savoure l'ouverture de ce nouveau bar-restaurant.
Quand on peut, on s'arrête, on boit un verre entre amis, on lit le journal de temps en temps. Il y a une bonne ambiance, je veux dire, il y a du monde qui vient. Et c'est un petit point de rencontre qui manquait à Bois-Trudan. On attendait ça depuis longtemps.
Allez, bye bye. Allez, bon courage à vous.
Aux commandes de l'établissement, il y a Sonia et Karim, un couple de Franc-Comtois arrivés en Bretagne presque par hasard.
Moi, personnellement, je recherchais du lien social, en fait. Et là, je l'ai parce que on prend le temps de discuter avec les personnes, de faire connaissance.
C'est gagnant-gagnant. Je crois que nous, on a gagné en sérénité, puis eux, ils ont gagné un commerce de proximité. Dans un village, pour qu'il marche, il faut une église et un bar.
D'ailleurs, de nombreuses communes étaient prêtes à les accueillir et à les aider. À Bois-Trudan, la mairie a financé les travaux de leur local, car ouvrir un bar, c'est surtout redynamiser le village, selon le maire Didier Rofflet.
On a moins des personnes qui viennent, entre guillemets, s'alcooliser. Maintenant, les bars, c'est plus un lieu de rencontre, un lieu de discussion. C'est surtout ça qui est très important.
Un lieu de rencontre intergénérationnel aussi dans un village qui compte de nombreuses personnes âgées et isolées.
Et puis tiens, en parlant de bière, n'en déplaise aux Belges et aux Allemands, la meilleure bière du monde est espagnole. Et oui, encore les Espagnols, c'est une bière ambrée d'Espagne qui a été sacrée cette année. Meilleure bière du monde, donc au World Beer Challenge, un concours de dégustation.
Avec modération. Évidemment, le journal de Clara Gabillet. Et on continue de lire vos messages sur le WhatsApp RMC avec Victor.
Et beaucoup d'appels à la solidarité envers les pompiers. On a Carole qui les salue d'abord, évidemment, en leur disant qu'elle espère qu'ils auront des vacances bien méritées après tout ça et qui appelle le monde de la culture, les personnalités publiques à faire des dons. Elle nous dit c'est le moment de sortir le chéquier pour vous. On a aussi Julien qui nous dit tout le monde veut plus de moyens pour les pompiers, pour la police, pour la justice, c'est louable, mais au moment où il faut payer plus d'impôts, là il y a beaucoup moins de monde pour chercher des financements. Et puis on a Thierry qui propose une idée en disant de faire payer les assurances quand les pompiers parviennent à sauver une maison, une contribution des assureurs quand la mission est réussie et pas forcément quand la mission est moins réussie.
Ce que disait un peu la députée qui était avec nous, faire contribuer les assureurs qui ont tout à gagner à ce qu'on puisse mieux défendre les maisons, les bâtiments pour éviter d'avoir ensuite à payer la facture. Vous continuez de réagir, le 06 12 424 424 sur WhatsApp, le 32 16, ouvert jusqu'à midi, standard ouvert sur RMC à nouveau ce matin pour tous vos témoignages, vos messages pour les pompiers, vos appels à la solidarité, et vous nous appelez bien sûr si vous êtes concerné dans la zone, que ce soit dans le sud-ouest ou également dans les autres régions touchées par les incendies. On pense au Var notamment ce matin. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on va retourner en Gironde. La nuit a été calme. Alors, y a-t-il espoir que les habitants puissent rentrer chez eux? La préfète parle d'un possible retour à la vie normale. On sera avec le maire de Biganos, ville fantôme depuis plusieurs jours maintenant, ville évacuée, un maire au front pour protéger sa commune, avec notamment le fait de creuser des tranchées. Il va nous raconter dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15, vous êtes sur RMC et RMC Story. Plus de 120 km de périmètre, de lisière, de forêt rasée en deux jours pour stopper le feu et protéger les communes. Bonjour Bruno Lafont.
Bonjour.
On est en Gironde avec vous, vous êtes le maire de Biganos, vous présidez aussi l'association de défense des forêts contre les incendies en Nouvelle-Aquitaine. D'abord peut-être un mot de la situation ce matin, on nous parle d'une nuit qui a été calme, et la préfète disait même hier envisager un retour possible à la vie normale si les choses continuent de se stabiliser. Est-ce que ça veut dire qu'on a espoir ce matin de voir les habitants revenir chez vous à Biganos ?
La décision lui appartiendra, mais ce qui est sûr c'est que depuis deux jours et trois nuits, le feu ne sort pas de son périmètre, qui est énorme, comme vous l'avez dit. Mais c'est un bon espoir, puisque les reprises sont toujours à l'intérieur du feu, et malheureusement, nous en aurons longtemps. Et c'est là où ça peut être inquiétant. Mais pour l'instant, là ce matin, au moment que je vous parle, nous avons eu deux, trois coups de tonnerre, et il tombe un peu d'eau. Donc ça, c'est toujours... Mais est-ce que... Moi, je suis sur le bassin d'Arcachon, donc sur Biganos, mais est-ce que ça sera pareil plus au nord, vers le Médoc? Vous savez, c'est assez changeant ici. Mais quoi qu'il arrive, les conditions s'améliorent et ça l'aidera à prendre la décision parce que ça commence à être un peu long.
Il y a de l'humidité et il y a des températures qui vont baisser. C'est ce que nous disait Charlène Villemer. Ça, c'est pour les informations plutôt rassurantes et les bonnes nouvelles qu'on a ce matin. Vous dites que ça commence à faire long. Vous avez des nouvelles de vos administrés, des habitants?
Oui, je suis allé les visiter hier après-midi dans les centres où ils sont, recueillis. Et vous savez, le français est très patient, hein, de manière générale. Et je trouve qu'ils sont assez résignés et ils prennent leur mal en patience. Mais bien sûr, ils veulent bien sûr rentrer chez eux. Et puis, vous savez, ils ont l'inquiétude de la sécurité, donc il faut sans arrêt les rassurer. Mais j'espère bien que d'ici quelques heures, nous allons avoir la bonne nouvelle qui nous permettra de réintégrer nos communes et de sortir de ces villes fantômes, puisqu'on se croirait vraiment à la période de la Covid, sans rien, sans personne dans les rues. C'est terrible.
Alors,
terrible.
Ce qui aide les pompiers, c'est aussi ces dizaines de kilomètres de pare-feu qui ont été creusés. C'est tout simplement de la forêt qui a été abattue pour faire des zones sans rien à brûler. Et pour arrêter le feu, vous y avez contribué. Ce sont des vraies tranchées, en réalité.
En fin de compte, ce sont des coupes d'appui, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on coupe la forêt pour empêcher que le feu, lorsqu'il arrivera, il n'aura plus de combustible. Et donc, nous avons eu un travail considérable. Nous étions prêts depuis samedi. Nous avions fait venir les machines prêtes à démarrer si nous avions le feu vert. Nous avions concerté l'ensemble des entreprises forestières et nous avions 200 machines avec des machines qui coupent les arbres, des machines qui les extraient de la forêt pour les mettre bord de route, des machines qui vont après nettoyer la forêt puisqu'on laisse le terrain le plus propre possible pour que le feu n'ait rien à consommer. Nous avons fait cela en 2 jours, nous avons fait 128 kilomètres et nous avons encore quelques distances sporadiques de 50 à 100 mètres de large, ce qui est énorme, ce qui permet aux pompiers de s'occuper que des sautes de feu, c'est-à-dire les brandons qui peuvent passer au-dessus.
Est-ce que selon vous, je vous laisse reprendre votre souffle, monsieur le maire, est-ce que selon vous ces zones de 50 à 100 mètres de large sans arbres, il va falloir les laisser telles quelles à l'avenir pour protéger la ville?
Mais bien sûr, et je pense qu'il va falloir que nous menions une réflexion, à la fois les professionnels, mais également tous ceux qui sont dans ce massif forestier, pour que nous puissions assurer, je dirais, des carreaux, mais c'est pas forcément des carreaux, mais des espaces, nous appuyer sur les endroits où il y a de l'agriculture qui est arrosée. Donc on a des espaces de répit, si vous permettez l'expression, et qui nous permettraient de composer ce massif, comme nous l'avaient fait nos anciens. Mais là, il faut qu'on l'adapte à une situation qui a changé à cause du changement climatique, à cause de personnes qui sont plus nombreuses dans le massif, à cause des constructions qui se sont faites, etc., etc. Il faut qu'on prenne tout cela en fait. Et c'est ce que nous avions voulu commencer à faire à partir de 2022. Mais si vous voulez, c'est toujours très difficile en France parce que dès l'instant où on commence à vouloir couper de la forêt lorsque c'est des temps normaux, on vous dit qu'on va détruire la biodiversité, que l'on va changer le paysage. Mais aujourd'hui, il est changé sur 42 000 hectares et on a perdu la biodiversité aussi.
Il y a effectivement parfois les normes environnementales qui sont bloquantes. Il y a aussi le fait que cette forêt soit privée. Et hier, l'un des représentants de ces forestiers privés disait ici même qu'il faudra replanter absolument des pins maritimes parce que c'est le modèle économique aussi de la région. Vous comprenez ça, replanter comme avant? Et est-ce que les habitants, est-ce que vos administrés sont prêts à l'accepter?
Monsieur, mais la forêt des pins maritimes, elle a été plantée à une époque. Mais le problème, c'est que le pin, il a toujours existé. Et ici, que voulez-vous qu'il pousse sur du verre pilé? C'est du sable. Or, le pin maritime est le seul arbre qui peut passer des jours sans eau. On le voit actuellement, il perd un peu les aiguilles un peu l'été. Et il peut rester 3 mois les pieds dans l'eau. Ça, c'est un arbre extraordinaire pour cela. Et alors qu'il y ait des lisières avec d'autres feuillus, on a commencé à le faire. Mais malheureusement, la forêt, alors après, est-ce qu'on devra planter autant de... c'est-à-dire autant densifier, est-ce qu'il faudra mettre des carreaux? Bon, ça, ça sera pas du jour au lendemain, mais ça peut...
Mais il y aura du pain. Monsieur le maire, je voudrais qu'on parle du Porche, parce que les habitants sont assez en colère, ils montent un collectif, ils estiment avoir été sacrifiés parce qu'ils ont vu les pompiers partir, c'était il y a une semaine, lorsque les maisons ont brûlé, 185 maisons brûlées, sacrifiés pour aller sauver le Cap Ferré. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, monsieur, il y en a eu la même polémique lorsqu'il y a eu la teste en disant... on a sauvé le Pila avec le mondain par rapport à l'Andiras. Vous savez, l'enquête le dira, parce qu'il y aura une enquête, hein, et chacun s'exprimera. Ce n'est sûrement pas à moi à porter ce genre de propos. C'est toujours des moments difficiles, et encore plus pour ces gens qui ont perdu leur maison. Donc c'est terrible. Mais écoutez, il faudra que tout cela soit regardé de près. Et il y a tous les chiffres, tout est marqué sur des mains courantes. Tout sera observé. Aujourd'hui, on a des moyens pour pouvoir regarder tout cela. Et il faudra bien répondre à toutes ces questions.
Merci.
Et j'en suis désolé. Voilà.
Merci Bruno Lafont d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes le maire de Biganos en Gironde, président de l'association de défense des forêts contre les incendies en Nouvelle-Aquitaine. Il est 8h22. Tout de suite, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Manu Le Chypre, ce chiffre de la croissance qu'on apprend ce matin, la France qui renoue avec la croissance, 0,2% au deuxième trimestre, l'économie française qui résiste finalement à la guerre dans le Golfe, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, effectivement, ce printemps, c'était vraiment le printemps de tous les dangers pour l'économie française. L'activité avait reculé en début d'année, donc c'est un pays fragile qui s'est fait percuter par la guerre entre l'Iran et les États-Unis. La prévision officielle, je vous rappelle, en début de l'année, celle de Bercy, sur laquelle était basé le budget, c'était 0,9% de croissance. Après, la Banque de France avait semé le doute en révisant à seulement 0,5%, donc en divisant par deux sa prévision à cause d'un deuxième trimestre qu'elle anticipait nul. L'INSEE était plus optimiste, nous disait non, le printemps ce sera 0,3. Bah voyez, on est plutôt dans la fourchette haute avec cette croissance de 0,2%. Donc le message, c'est quand même qu'au cours de ce printemps dur, la croissance française a plutôt tenu.
Alors, il y a quand même du bon et du moins bon hein, dans ces chiffres.
Oui, alors le bon, c'est évidemment le dynamisme de nos exportations qui augmentent davantage que nos importations. Et là, c'est grâce à l'aéronautique et aux ventes d'Airbus notamment. Le assez bon, c'est la consommation des ménages. Alors, il y a logiquement une baisse de la consommation d'énergie puisque la flambée des prix des carburants a fait baisser notre consommation d'essence. Il y a aussi une baisse de la consommation alimentaire. Les Français, faut être très clair, ne se sont pas rués dans les magasins parce qu'on sent bien que l'ambiance est encore plutôt à l'épargne. Mais par contre, ils ont consommé nettement plus de services. Et puis le mauvais, c'est la baisse de l'investissement des entreprises tirée vers le bas par la construction. Le cocktail qui est à l'œuvre, c'est le pire hein, pour les chefs d'entreprise. C'est incertitude géopolitique, incertitude politique en France avec la perspective de la présidentielle, situation financière plus fragile des entreprises. Donc, effectivement, tout ça est mauvais pour l'investissement. La conclusion, c'est que la prévision sur l'année d'une croissance de 0,7%, ça reste optimiste au vu de ce qu'on anticipe pour le deuxième semestre avec toujours des prix du pétrole élevés. Mais ça n'est pas quand même hors de portée.
Et on y reviendra avec Amir Reza Tofighi qui sera mon invité juste après le journal de 8h30, le président des entrepreneurs, la fédération des petites et moyennes entreprises. On termine avec les chiffres de l'énergie, les chiffres du jour.
Alors sur les carburants, c'est plutôt stable, disons, sur un plateau assez élevé, hein, 2,21€ pour le gazole, 2,02€ pour le samplon 95. Alors par contre, le prix du pétrole, c'est toujours le yo-yo. Hein, je vous rappelle qu'il y a une semaine, on était remonté à $100 le baril, qu'il y a trois jours, on était retombé à 84, et que maintenant, on est à $92 le baril. Le gaz, lui, il oscille toujours autour de €60 le mégawattheure depuis le début de la semaine. Il est à un sommet aussi.
L'économie avec Manu Le Chypre tous les matins sur RMC 8h25. Tout de suite, Arnaud Demanche, on vous a gardé le meilleur.
Alors là, AS Monaco a signé donc, le latéral portugais Nazinho.
Nazinho, eh oui, Nazinho.
C'est vrai que
ça se prononce avec l'accent
ça
chantant, Nazinho. C'est pas un pseudo comme
programme.
Ronaldinho, hein. C'est son vrai nom.
Ouais.
Heureusement, il n'a pas choisi. C'est son vrai nom. L'AS Monaco, je ne sais pas ce qu'ils ont ces dernières années. Il y a deux ans, ils avaient signé Adolf Hütter comme entraîneur. Après, ils avaient engagé Willem Goebbels. Et cette année, c'est Nazinho.
Oui.
Ça va devenir la SS Monaco. Dans six mois, on a une équipe au top. Et allez, le coup d'envoi qui est donné là. Avec Nazinho qui s'appuie sur Mussolina, qui dévie vers Auschwitz en première intention. En deuxième, Colabi. Troisième, Reich. Et Maxence Lacroix, là, avec son compère Pierre Gamet. Charnière solide, hein, Lacroix-Gamet. Et but ! But de Mourinho !
Oh !
Vicente Bolorino qui ouvre le score sur cette passe de Vladimir Senius. Bref, c'est l'occasion de rejouer un jeu auquel on a déjà joué l'année dernière. Ce footballeur existe-t-il ou pas? Je vous donne des noms de deux footballeurs. Vous me dites lequel est le vrai. C'est que des nouveaux noms par rapport à l'an dernier. Attention, top. Lequel est le vrai entre Igor Lolo et Boris Cucu?
Boris Cucu.
Non, c'est Lolo. Igor Lolo, c'est vrai. David Lambada ou Jonathan Bamba?
Bamba.
Romano Mussolini ou Heinrich Hitler?
Oh non!
Eh oui, il y en a un des deux qui est vrai. Non, c'est Mussolini qui est vrai. Et qui est descendant direct d'eux, d'ailleurs. Iago Pikachu ou Thiago Bulbizarre? Iago Pikachu.
Mais non,
Au Brésil. Kevin Lasagna, Brandon Carbonara.
Lasagna.
Nicolas Sachi, TJ Savachier. Attention,
c'est là où on a une idée.
C'est Nicolas Sachi, ouais. Anthony Sminou ou Nikos Abrikos?
Abrikos?
Non, c'est Anthony Sminou. Et enfin, last but not least, Oussama Bin Laden ou non. Norman Lelandais? Non, c'est Oussama Bin Laden. Un vrai joueur. Arnaud Demanche, que vous retrouvez quand vous voulez en podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. Dans un instant, le point complet sur la météo, la canicule qui part vers l'est et de la météo plutôt rassurante, puisque le maire de Biganos nous disait qu'il pleut sur, en tout cas au moins une partie là, ce matin de la zone de l'incendie, en tout cas quelques gouttes. Et puis le journal de 8h30, à tout de suite. Il est 8h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Un nouveau journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Enfin des nouvelles rassurantes en Gironde. L'incendie ne gagne plus de terrain depuis 3 jours et les pompiers mobilisés depuis une semaine peuvent compter sur l'aide des entreprises forestières. RMC est allé à leur rencontre. En pleine crise des incendies, les vacances de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, dans le Var, passent mal. Et le projet fou d'Infantino de vendre une partie de la FIFA à des investisseurs privés provoque la colère de l'UEFA.
Enfin, un peu d'espoir en Gironde.
L'incendie qui a parcouru 42 000 hectares est stabilisé depuis 3 jours, mais pas encore fixé. Des dizaines de reprises de feu cette nuit, maîtrisées par les pompiers. Des pompiers aidés depuis plusieurs jours par des entreprises de travaux forestiers. Leurs pelleteuses ont creusé près de 130 km de coupe tactique. Objectif, bien sûr, ralentir la progression du feu. Notre envoyé spécial RMC, Marion Gauthier, est allé à leur rencontre.
Le craquement des branches, puis le bruit sourd des arbres qui tombent sur la parcelle de Jennifer.
On la reverra plus jamais, peut-être grande et belle comme elle était. Ça fait mal au cœur parce qu'on va avoir des grands espaces vides.
Car une dizaine de machines s'activent entre les pins.
Ils les débitent et ils les évacuent de façon à ce que ça ne soit pas des sources de foyers.
Que les flammes n'aient plus rien à consumer sur 50 mètres avant une route départementale.
Il ne faut pas que ça revienne, il ne faut pas que ça traverse. Le risque, c'est la pointe du Médoc, quoi.
Alors Bruno, un forestier, s'acharne depuis des jours.
Je suis dépité. On travaille toute l'année en forêt et c'est pas pour ce résultat-là, quoi. C'est un cauchemar, quoi. Mais on va se réveiller.
Un mélange de poussière et de cendres au sol.
Ben voilà, alors.
Ben voilà, là.
Et des gilets orange tronçonneuses en main.
C'est le plus grand incendie qu'on a vu, je pense, ici. Ouais, ça fait peur, rien que d'en parler.
Vous en voyez le bout?
Non, pas forcément. On espère juste que ça va s'arrêter un jour.
Maxime a été évacué de chez lui, mais il est resté dans la région, logé par son collègue.
Pour aider, surtout, parce que j'aurais très bien pu partir. C'est sûr qu'on n'a pas des lances à incendie, on n'a pas de choses comme ça, mais... Voilà, c'est ça, on a des tronçonneuses et des bras.
Tous doivent bientôt partir, des reprises de feu ont été repérées.
Et la tendance est à l'optimisme. Ce matin en Gironde, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes à l'Age Cap Ferré. Pour RMC, les conditions s'améliorent enfin sur le front de l'incendie.
Comment on peut arriver...
Oui, une ministre de l'écologie en vacances dans sa villa du Var en plein incendie historique. Ça ne montre qu'une seule...
C'est... Alors Jean-Wilfried Forquès, vous êtes à l'Age Cap Ferré pour RMC. Les conditions s'améliorent enfin sur le front de l'incendie.
Oui, la nuit a été calme, m'a dit tout à l'heure ici au PC un officier des sapeurs-pompiers. Nuit calme, le feu est stabilisé, pas encore maîtrisé ou fixé. Il l'espère dans les prochaines heures. Il y a eu des reprises de feu la nuit dernière. Une dizaine de points chauds comptabilisés par les pompiers. Ils ont pu intervenir, endiguer ces points de reprise, de réactivation du feu. Pour cette journée, 3300 pompiers vont être mobilisés. Le chiffre devrait être confirmé dans quelques minutes ici à l'occasion d'une conférence de presse qui sera tenue au PC. On devrait apprendre un autre chiffre, le nombre de blessés. 230 pompiers ont été blessés au cours de la semaine écoulée.
Jean-Wilfried Forquès, envoyé spécial RMC en Gironde. La SNCF maintient jusqu'à dimanche l'annulation des TGV au sud de Bordeaux. Les trains au départ de Paris ont leur terminus à Bordeaux, sauf ceux en direction de Toulouse. Le feu de Biscarros, lui, est toujours en cours. Deux nouveaux départs hier. 45 hectares ont été parcourus par les flammes dans le secteur de Rion-les-Landes. Une cinquantaine d'incendies en cours en France. Le Var est concerné. Un feu qui s'est déclaré hier dans le secteur de Brignoles est maîtrisé. Ce matin, 130 hectares parcourus par les flammes. 650 personnes ont dû être évacuées. La Côte d'Or brûle également. Un feu près de Dijon. 125 hectares parcourus par les flammes. L'incendie n'est toujours pas fixé. Et cette pétition, ce matin, 280 000 signatures pour interdire la chasse dans les forêts ravagées par les incendies. À l'origine de cette pétition, un refuge du Cantal qui veut laisser 3 ans à la faune et à la flore pour se reconstruire. Et Bruno Valentin demande désormais un moratoire à Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu.
Je ne vois pas comment on peut arriver, après un été tel qu'ils l'auront passé, à tuer des animaux. Je peux pas admettre ça. Il faut vraiment qu'on arrête pendant au moins 3 ans d'embêter les forêts. Mon premier objectif, c'est d'avoir une réponse du président et du premier ministre. Ben, il me montrerait au moins qu'il s'intéresse aux vivants et après qu'il me réponde favorablement au moratoire de 3 ans sur la chasse. Mais moi, je serai toujours présent tant que j'aurai pas ces réponses-là.
Bruno Valentin, auteur de cette pétition, pétition disponible sur le site change.org.
Et en pleine crise des incendies, les vacances de la ministre Monique Barbu font polémique.
La ministre de la Transition écologique a quitté Paris pour rejoindre sa résidence secondaire à Sainte-Maxime dans le Var, tout en assurant rester mobilisée à distance. De quoi Thomas Becker déclencher la colère de l'opposition, mais également du gouvernement.
Oui, une ministre de l'écologie en vacances dans sa villa du Var en plein incendie historique. Ça ne montre qu'une seule chose, estime un conseiller gouvernemental. Monique Barbu est à côté de la plaque. La semaine dernière, la ministre avait démissionné avant d'être rattrapée en dernière minute par le président de la République qui lui a demandé de rester pour gérer les crises. Un conseiller de l'exécutif tente une métaphore. C'est la chouchoute de l'instituteur. Elle peut faire des conneries, mais on lui dira rien parce que c'est Monique, s'étrangle-t-il. L'entourage de la ministre balaye des bruits de couloir, des frustrés qui la dénigrent pour lui nuire. Les cellules de crise sont décidées à la dernière minute. Elle n'est pas la seule à les avoir suivies à distance, démine son entourage. Un de ses conseillers glisse qu'elle a eu besoin de retrouver ses proches dans le Var après la séquence de la vraie fausse démission. Il l'assure, elle est à la tâche. La ministre n'a pas besoin de se montrer pour justifier son travail.
Et l'économie française renoue avec la croissance au deuxième trimestre, plus 0,2%, chiffre de l'INSEE ce matin. RMC 8h36, la FIFA veut-elle vendre une partie de son âme au privé? Le patron de l'instance, Gianni Infantino, envisage de faire entrer des investisseurs privés au capital de l'instance mondiale du foot avec plus de 4 milliards de dollars à la clé. L'UEFA s'insurge et les critiques se multiplient, Antoine Bras.
Des très vives inquiétudes pour la FFF, une attaque contre le foot, d'après la fédération allemande. Les confédérations asiatiques et nord-américaines s'opposent-elles aussi au projet? Et pourtant, il a des chances d'aboutir. La FIFA a fixé un ultimatum aux 211 fédérations de football du monde. Elles ont jusqu'au 19 septembre pour dire si elles sont pour ou contre la création d'une société. Si plus de la moitié est d'accord, ce sera adopté. Cet ultimatum en dit long sur la nature de ce projet, résume ironiquement l'UEFA. Face aux remontrances, Gianni Infantino s'est senti obligé de se défendre hier soir.
C'est une proposition, une offre qui s'inscrit dans le cadre d'un processus démocratique et surtout c'est une proposition mais pas une obligation.
Rien d'obligatoire, sauf qu'Infantino a quand même une carotte exceptionnelle. Les fédérations qui disent oui recevront chacune 40 millions de dollars. Celles qui disent non n'auront que des miettes. Hier soir, la Confédération africaine de football a appelé ses membres à examiner la proposition de Gianni Infantino.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Dieppe aujourd'hui à 20h15.
Et le pronostic de Dimitri Blanc-L'Œil, son favori, hélas, Love is Gold. Son outsider est le 9, King Trezy.
Clément Gouitz pour le journal sur RMC. Il est 8h38, on va repartir au 32-16. C'est Laurent qui est avec nous en direct. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour. Bonjour Sébastien.
Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans la Somme, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui.
Et ça vous fait réagir ces incendies qu'on vit au quotidien depuis maintenant des jours et des jours?
je voudrais faire un coup de gueule parce que je connais bien la région du Temple et tout ça, où on a fait faire souvent du vélo en famille. Et je suis un fidèle vraiment de l'antenne et de BFM. Mais je trouve vraiment qu'on ne parle pas assez des plus de 220, je ne sais plus combien, 230 personnes qui ont mis le feu. On ne parle pas de ce qu'ils risquent, de ce qu'ils vont, comment ils vont participer aux sommes colossales que ça va coûter. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout assez. Vous avez des gens vachement compétents dans le juridique chez vous et à BFM. Est-ce qu'on peut au moins en parler ?
263, je vous donne le chiffre, Laurent, pour être très précis. 263 interpellations, c'est le dernier chiffre qui a été communiqué hier par le gouvernement. 263 interpellations depuis le 28 juin, dont 92 mineurs. Les deux tiers sont des accusés d'incendie volontaire, donc criminels, et un tiers non volontaire.
Oui, justement. Et donc, qu'est-ce qui risque ? Vous savez bien que dans une famille, c'est pareil. Quand il y a un gamin qui fait une connerie ou un adulte, on essaie de mettre en parallèle qu'est-ce qui risque quand même pour essayer de dissuader les autres. Parce que on a l'impression, quand on écoute les émissions, et je les écoute tous les jours forcément, qu'on dit il y a toujours des incendiaires. Quand l'incendiaire, enfin, c'est quand même pour nous incompréhensible, mais il y en a. Je suis d'accord. Mais si on dit pas au moins ce qui risque et comment ils vont contribuer. Alors, je mets un bémol à ce que je dis. Si jamais les gens de BFM, les gens du juridique chez vous, ils disent qu'en fait, parce que c'est les mineurs ou parce que les parents, ils n'ont pas les moyens, ils risquent rien, surtout ne faites aucun message.
Alors non, mais... je crois pas que ce soit du tout ça, Laurent. Au contraire, là, il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées ces derniers jours. Et il y a notamment le procureur de Bordeaux qui veut durcir les sanctions, y compris contre des gens qui sont simplement négligents et qui, de façon involontaire, déclenchent les feux. Il veut les poursuivre pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc là, effectivement, les peines sont sévères et peuvent être extrêmement sévères. Mais vous avez raison, Laurent, de nous alerter sur le fait qu'il faut absolument qu'à la rédaction, on suive ces dossiers-là. Alors là, en l'occurrence, le grand feu de Gironde, c'était involontaire et c'était, on sait, un débroussaillement. Mais effectivement, sur tous les autres et dans le Var, il y a des questions sur des incendies volontaires. Mais on va suivre ces dossiers. Rassurez-vous, Laurent, merci beaucoup pour votre appel au 32-16. Il est 8h40.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Et dans un instant, comment amortir le choc? Une semaine de flammes, des centaines de milliers d'évacués, le choc psychologique d'abord. Nous avons suivi les psychologues sur le terrain et puis le choc économique bien au-delà de la zone de l'incendie. Il y a une nouvelle réunion à Bercy aujourd'hui pour les entreprises. Bonjour Amir Reza Tofighi.
Bonjour.
Bienvenue, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous présidez les entrepreneurs, c'est la fédération des PME, c'est l'ancienne CPME. Comment éviter les défaillances en cascade? On en parle dans un instant et le standard est ouvert. Vous le savez, standard ouvert jusqu'à midi sur RMC au 32-16 sur les conséquences de ces incendies. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h44 sur RMC. Et c'est l'heure du choix de la rédaction. Nous retournons en Gironde ce matin puisque nous avons pu accompagner les psychologues qui accompagnent les sinistrés dans les centres d'hébergement d'urgence. Un soutien essentiel, notamment auprès de ceux qui ont tout perdu. C'est Pierre Bourgès qui a suivi pour RMC, le psychologue du centre d'hébergement de Gujan-Mestras.
Bonjour madame. Bonjour. Je suis Marc, je suis psychologue.
Cette habitante évacuée fond en larmes. Son chien est resté chez elle tout seul depuis une semaine.
Il ne doit plus avoir d'eau, il fait chaud.
C'est ma seule famille, explique-t-elle.
Pour aller protéger une dame âgée. Je suis partie, je l'ai vite mise à l'abri. Le temps que je revienne, mon interview est rentré sur Rodernon, si j'ai pas le temps de prendre.
Bon, on peut imaginer qu'il y a des choses qui vont pouvoir bouger.
La mairie, je les ai appelés, il y a un service justement
pour
la mairie.
Bien sûr.
Pendant un quart d'heure, Marc Jablonski va écouter cette habitante et petit à petit, les larmes sèchent, à la place, un sourire sous des yeux fatigués.
Je ne vous dérange pas plus.
Mais vous ne me dérangez absolument pas, je suis là pour ça. D'accord ?
Merci beaucoup.
Allez, bon courage.
Bon courage.
Donc ça crée quand même une grande tension interne. Et des peurs, hein. Je crois qu'on est, faut employer le terme de peur.
Depuis dimanche, le psychologue déambule dans ce gymnase transformé en dortoir. Ils sont une quinzaine à se relayer sur les différents refuges du secteur.
Souvent, c'est peut-être juste discuter 10 minutes, s'assurer qu'une personne va bien, et puis parfois, il y a des personnes qui veulent aller plus loin, et pas nécessairement parler d'ailleurs du feu, etc., etc. Parler d'elles, parler de leur histoire, parler de ce que ça évoque, etc., etc. Ça va, monsieur ?
Ouais,
ça va. Si jamais à un moment vous sentez que c'était un peu compliqué, vous n'hésitez pas à venir me voir, moi ou une de mes collègues.
Une semaine, bon, ça va.
Ça fait une semaine.
Mal en patience.
Ouais.
On peut faire autrement.
Il y a des personnes qui vont pas parler forcément facilement, qui vont pas trop se plaindre, mais on peut le voir dans leur regard, dans leur voilà, qui viennent nous saisir et là de pouvoir leur proposer ce moment-là. On vit un événement traumatique.
Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura du traumatisme. Plus le traumatisme potentiel est pris en charge tôt, mieux c'est. Là, on est sur vraiment de la clinique au sens psychologique, médical, etc., de l'urgence. Les questionnements, c'est souvent un peu les mêmes. Hein. C'est vraiment quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer, comment je vais retrouver ma maison. Voilà, c'est vraiment ça, en fait.
Le grand défi d'après, de l'après, c'est quoi ces grands défis-là?
D'un point de vue psychologique, ça va pouvoir... ça sera de continuer à être présent parce que certaines personnes vont être effectivement beaucoup plus traumatisées. Pour le coup, il y aura certainement pour certaines personnes du psychotrauma. Et là, il s'agira de mettre en place des accompagnements spécifiques.
Les évacués, eux, saluent cette présence. C'est rassurant, soufflent certains. Les psychologues et tout le corps médical restent mobilisés tant que les habitants ne pourront pas rentrer chez eux.
Le reportage de Pierre Bourgès à Gujan-Mestras pour RMC. Et je vous rappelle cette grande opération standard ouvert jusqu'à midi encore ce matin. Émission spéciale juste après Pauline Matin. Vous aurez très largement la parole si vous êtes dans la zone. Si vous voulez tout simplement donner un coup de main. Il y a eu beaucoup de témoignages et d'entraide hier sur RMC. Regardez avec Christophe par exemple, qui est membre de la grande famille RMC. Christophe, il est VTC et il fait des trajets gratuitement pour les sinistrés. Il a témoigné hier.
Tous ces gens déplacés, tous ces hectares de forêt qui sont partis en fumée, toutes ces maisons. Nous, on a de la chance et voilà, c'est pour ça qu'on veut aider autant que faire se peut tous les gens qui sont plus dans le malheur que nous.
L'émotion de Christophe, le 32-16 qui est donc ouvert jusqu'à midi avec Rémi Barré, avec Julie Brault, vous avez la parole. Vous nous écrivez aussi sur WhatsApp 06 12 424 424. Il est 8h47 sur RMC et on en vient au choc économique avec vous Amir Reza Tofighi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RMC, RMC Story. Vous présidez les entrepreneurs qu'on appelait avant la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous avez rendez-vous avec Bercy aujourd'hui pour une nouvelle réunion sur le suivi, l'accompagnement des entreprises. Vous avez aussi lancé votre propre cellule de crise. Est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de cette crise sur le monde économique et les conséquences en cascade? Parce qu'il n'y a forcément pas que la zone liée à l'incendie.
Moi, j'aimerais déjà avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées, les personnes qui ont été évacuées. Et saluer le travail remarquable des pompiers, des forces de l'ordre et de toutes les personnes qui sont engagées sur le terrain. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir des chiffres. On a à peu près, les chiffres qu'on a, c'est à peu près 15 000 entreprises qui sont touchées en Gironde, par exemple. 50 000 salariés dans ces 15 000 entreprises. Et plus globalement, 150 000 salariés, qui sont susceptibles d'être mis en activité partielle. Pour une raison très simple, comme vous l'avez dit, c'est qu'on a des entreprises qui sont dans les zones sinistrées, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas directement sinistrées, mais qui, pour différentes raisons, ont leur activité qui chute, parce qu'on a une baisse de tourisme, parce que on a des salariés de ces entreprises qui ont été évacués, parfois les clients de ces entreprises qui ont été évacués, et donc on est potentiellement sur un sujet économique grave dans le département.
Alors il y a déjà eu des annonces, le chômage partiel proposé à ces entreprises, financé par l'État, des possibilités de reporter le paiement de certaines charges. Est-ce que ça va suffire pour ces entreprises ou est-ce qu'il faut aller plus loin?
Déjà le premier sujet c'est, et ça, c'est un appel aux Français, c'est il faut pas annuler vos vacances quand la zone dans laquelle vous allez n'est pas directement fermée et sinistrée. Et lorsque vous pouvez y aller, je dis ça parce qu'on a aujourd'hui de nombreuses annulations dans un mois, dans des zones qui sont par exemple en Gironde, mais pas directement dans les zones sinistrées. Et donc, il faut pas ajouter une deuxième crise économique à une crise déjà existante.
Là-dessus, le discours officiel a pu être à minima maladroit lorsque la préfète avait dit ne venez pas en Gironde.
Oui, bien évidemment, c'était maladroit au début parce que il faut bien évidemment respecter toutes les mesures de sécurité, mais il faut pas non plus effrayer tout le monde en disant attention, il faut pas du tout venir dans le département, parce que derrière on a de nombreuses entreprises pour qui le mois de juillet, le mois d'août, c'est les deux tiers de leur activité. Donc vous imaginez ce qui va se passer pour ces entreprises-là et pour tous leurs salariés.
Donc qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut aussi, par exemple, on a entendu des entrepreneurs demander des prêts garantis par l'État. Est-ce que ça, c'est possible?
Alors, déjà le premier sujet, donc ne pas faire peur aux touristes. Le deuxième sujet, c'est l'activité partielle. Comme on le disait, parce qu'aujourd'hui, on est en train justement de négocier avec l'État, c'est de permettre à toutes les entreprises qui sont directement ou indirectement touchées de bénéficier de l'activité partielle. C'est-à-dire de permettre à leurs salariés de ne pas travailler 100% de leur temps et d'être pris en charge en partie par l'État. Ensuite, avant de parler de prêts garantis par l'État, parce qu'on voit aujourd'hui que les moyens de l'État sont quand même assez limités, il va falloir trouver une solution pour les pertes d'activité. Parce que la plupart des contrats d'assurance aujourd'hui ne couvrent pas la perte d'activité lorsque l'entreprise n'est pas directement impactée.
Et ça, est-ce que l'État peut forcer la main aux assureurs pour la prise en charge?
Il va falloir avoir une négociation entre les assureurs, entre l'État, pour trouver une solution. Parce qu'aujourd'hui, très très peu de contrats prévoient ça. Moins de 5% des contrats prévoient la perte d'activité lorsque l'entreprise n'est pas directement impactée.
Quand il n'y a pas de dégâts en réalité, mais qu'on est impacté par exemple par des annulations en cascade ou parce qu'il y a eu...
Exactement. On a aussi aujourd'hui des entreprises qui ont été fermées. Des entreprises qui ne peuvent pas agir parce que suite à des décisions administratives. Mais celles-là, elles n'ont aucune couverture aujourd'hui. Et donc, il faut absolument prévoir ça. Et donc, c'est dans les négociations qu'on aura avec l'État, avec les assureurs, parce que sinon, on va avoir de nombreuses entreprises qui vont être au tapis.
Mmh. Amir Reza Tofighi, je voudrais qu'on dise un mot de la croissance, parce qu'on a eu tout à l'heure le chiffre de la croissance pour le deuxième trimestre, plus 0,2%. La bonne nouvelle, c'est que la France renoue avec la croissance. Elle était négative au premier trimestre, mais est-ce qu'elle est suffisante? Ou est-ce qu'on acte aujourd'hui qu'on n'atteindra pas les objectifs fixés par le gouvernement qui espère encore 0,7% à la fin de l'année?
Bien évidemment que cette croissance n'est pas suffisante. Aujourd'hui, on est un pays qui stagne en termes d'activité. On a de nombreux pays qui ont des croissances beaucoup plus élevées, juste à côté de l'Espagne par exemple. Et donc nous, on se contente de 0,2% sur le trimestre, après avoir eu un premier trimestre qui était stable. Donc aujourd'hui, il faut relancer l'activité économique. Et pour relancer l'activité économique, il faut sortir du logiciel dans lequel on est en France, qui est de dire, à chaque fois, on met plus d'impôts sur les entreprises, on met plus de normes, on met plus de règles, alors que les entrepreneurs ont besoin de quoi? Ont besoin de stabilité, ils ont aussi besoin d'avoir de la respiration, donc de pouvoir investir, de pouvoir avoir de la liberté. Et c'est ce qui manque aujourd'hui.
Cette croissance atone, vous l'attribuez à quoi? Il y a l'impact de la guerre, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Bah c'est vrai
guerre
que
en Iran, mais pas seulement.
Les entrepreneurs ont un côté explosif actuellement. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Bon là, c'est récent, les incendies. Il y a eu aussi tout le débat sur le budget en fin 2025. Il y a eu tout le débat sur les augmentations du coût du travail qui ont eu lieu. Donc on a un contexte économique qui est difficile et on rajoute un contexte politique dessus qui est difficile. Donc ça n'incite pas les entrepreneurs à investir. Et un entrepreneur qui n'investit pas, c'est une autre entreprise derrière qui a un carnet de commandes qui est plus faible.
Ça veut dire qu'en clair, les entrepreneurs dont on voit effectivement la baisse des investissements sont dans une forme d'attentisme en attendant la présidentielle aujourd'hui. Ça va durer en gros jusqu'au moins d'avril-mai de l'année prochaine.
Bah, ça va durer jusqu'à qu'à un moment donné, on nous donne une vraie lisibilité, une vraie visibilité. Concrètement, si lors du prochain budget, on a encore des débats sur est-ce qu'il faut augmenter le coût du travail, est-ce qu'il faut encore augmenter les impôts, est-ce qu'il faut mettre des normes supplémentaires. Comment vous voulez qu'un chef d'entreprise puisse investir, puisse se projeter? Et donc là, on va avoir une séquence budgétaire en janvier, pour janvier, et ensuite une séquence présidentielle. Il est impératif que pour le budget, les entreprises puissent avoir une stabilité totale, ça veut dire aucun nouvel impôt, aucune nouvelle augmentation de charges sur le salaire, parce que sinon, elles vont continuer à être dans une logique de aucun investissement supplémentaire, parce que aucune stabilité dans les mesures qui sont prises.
Vous parliez du budget, moins de croissance, c'est aussi moins de rentrées fiscales pour l'État, c'est aussi le déficit qui se dégrade, réaction en chaîne.
D'emplois aussi.
Pardon ?
Et c'est moins d'emplois.
Et c'est moins d'emplois. Il va y avoir les discussions budgétaires. Tout va se jouer à la rentrée avec forte incertitude sur le fait d'avoir une majorité pour passer un budget. Qu'est-ce que vous dites aux groupes politiques ce matin ? Est-ce qu'il faut absolument un budget pour la France en fin d'année ?
Oui, il faut absolument un budget. Parce que pas de budget, c'est des conséquences encore plus graves derrière. C'est beaucoup de dépenses qui pourront pas être débloquées. Je pense par exemple à ma prime rénov pour tout ce qui est la rénovation des logements. Il faut absolument un budget. Maintenant, il faut un budget qui soit à minima protège les entreprises, parce que protéger les entreprises, c'est protéger les salariés, c'est protéger notre capacité demain aussi à avoir des rentrées fiscales, vous l'avez bien dit. Et donc, il faut un budget qui protège les entreprises, et il faut un budget qui s'attaque aux vraies problématiques aujourd'hui, c'est la dépense sociale aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle de la dépense sur les retraites, la dépense à la santé, sur lequel on a des vraies économies à faire, pas pour détricoter le modèle social, mais pour le sauver justement.
Merci d'être venu ce matin sur RMC et RMC Story, Amir Reza Tofighi, président des entrepreneurs. Très bonne journée à vous. Il est 8h55, l'heure de passer la main à Rémi Barré et à Julie Brault. C'est parti, standard ouvert jusqu'à midi.
Exactement. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Face au méga feu qui ravage actuellement plusieurs régions de France, nous continuons sur RMC de bousculer nos programmes. RMC, standard ouvert, spécial incendie de 9h à midi. Beaucoup, beaucoup d'émotions hier au 32-16. Beaucoup de solidarité aussi, et ça paraît un peu bizarre, mais le mot qui est revenu souvent hier dans les bouches de ceux qui nous appelaient, c'est le mot beau, parce qu'il y a aussi du beau dans cette crise, de l'humanité, beaucoup de solidarité. Et il y a aussi de la colère, forcément. Vous continuez à témoigner de tout ce que vous vivez, vous ou vos proches, tout ce que vous ressentez depuis une semaine. C'est simple, vous nous appelez avec Julie qui lira également vos messages, vous nous appelez au 3216 et vous réagissez également sur le WhatsApp de l'émission au 06 12 424 424 RMC. Standard ouvert spécial RMC, on vous attend de 9h à midi. À tout de suite.
À tout de suite sur RMC, très belle journée, à demain.